Alléluia, le consolateur demeure avec moi. Je j'aimerai jouer jour et nuit sur la croix, chemin qui nuit, car le consolateur demeure en moi. Je me réjouis jour et nuit sur le chemin de la vie, car je peux voir la main de Dieu dans ma vie. La raison de mon bonheur, son secret dans mon cœur, que le consolateur demeure avec moi. Est-ce qu'il est en vous? Il demeure, il demeure. Le consolateur demeure en moi. Je me réjouis jour et nuit sur les trois chemins qui lui, car le consolateur demeure en moi. Mon cœur était autrefois rempli de péché, je n'avais pas de paix à l'intérieur, jusqu'à ce que j'ai entendu comment Jésus est mort sur l'arbre. Puis je suis tombé à ses pieds, et alors il est venu dans une paix si douce. Maintenant, le consolateur demeure en moi.
Il demeure, le consolateur demeure en moi.
Je me réjouis jour et nuit sur les trois chemins qui lui, car le consolateur demeure en moi. Il est partout avec moi, il connaît tous mes besoins. Je me sens si heureux et libre comme l'air, car son esprit me contrôle, il satisfait mon âme depuis que le consolateur demeure en moi.
Il demeure, le consolateur demeure en moi.
Je me réjouis jour et nuit sur les trois chemins qui lui, car le consolateur demeure en moi. Il est partout avec moi, il connaît tous mes besoins. Je me sens heureux et libre comme l'air, car son esprit me contrôle, il satisfait mon âme. Le consolateur demeure en moi.
Il demeure, le consolateur demeure en moi.
Je me réjouis jour et nuit sur les trois chemins qui lient, car le consolateur demeure en moi. Tapons-le des mains. Est-ce qu'il habite en vous? Avec vous tous les jours? Amen. Chantons-le alors.
Il demeure, le consolateur demeure en moi.
Je me réjouis jour en nuit sur les trois chemins qui lui, car le consolateur demeure en moi. Il est en moi tout le temps, il connaît tous mes besoins. Il est en vous, il est avec moi. Est-ce qu'il est toujours avec vous? Il est avec moi partout, il connaît tous mes besoins. Je me sens heureux et libre comme l'air, car son esprit me contrôle et satisfait mon âme. Le consolateur demeure en moi.
Il demeure, alléluia, le consolateur demeure en moi.
Je me réjouis jour et nuit sur les trois chemins qui lui, car le consolateur demeure en moi.
Il demeure,
le consolateur demeure en moi. Je me réjouis jour et nuit sur les trois chemins qui lui, car le consolateur demeure en moi. Est-ce qu'il est en vous, avec vous, partout où vous allez? Il demeure juste là, en moi. Loué soit le nom du Seigneur. Alors, chantons-le avec tout ce que nous avons à l'intérieur, encore une fois, alors que nous l'aimons.
Il demeure, le consolateur demeure en moi.
Je me réjouis jour et nuit sur les trois chemins qui lui, car le consolateur demeure en moi. Encore une fois, il demeure, le consolateur demeure en moi. Je me réjouis jour et nuit sur les trois chemins qu'il vit, car le consolateur demeure en moi.
Merci Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. C'est tellement un honneur d'être avec vous ici ce matin. Et dans le nom du Seigneur Jésus. Et je sais que vous êtes aussi surpris que moi. Nous nous ennuyons certainement de Frère Joseph ce matin. Et alors nous, de tout notre cœur et vers son cœur aujourd'hui, peu importe où il est sur la ligne
téléphonique,
il t'écoute sur la ligne. Frère Joseph, nous t'aimons, nous t'apprécions, nous sommes derrière toi à 100%. Loué soit le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis mon cœur est tellement béni d'avoir lu cette lettre sur le site Internet, que le message est tout ce dont nous avons besoin. Cela a tellement béni mon cœur. Seulement d'être avec vous est tellement un honneur. Et combien de visiteurs avons-nous ici ce matin? Alors, si nous en avons, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse, tous ceux qui sont sur la ligne, à l'écoute, que le Seigneur soit avec vous. Vous êtes une partie de cette épouse. Nous sommes assemblés ici aujourd'hui pour entendre l'ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. C'est pour entendre cette parole qui a été livrée à le prophète messager William Marion Branham. Et je lisais une écriture ici. Excusez-moi.
I'm gonna be all right.
Ça va bien aller. Mais dans 2 Pierre 3, 1 et 2, je pensais à cette écriture. Et c'est tellement merveilleux. Et ça se lit comme suit. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes.
Amen. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Il y a une seule façon de se souvenir, d'être certain qu'on se souvient bien, c'est d'entendre le prophète de Dieu, les prophètes de Dieu, alors qu'il nous parle, et c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons nous faire rappeler par son prophète dans le message. Dans le message ici, la fête des trompettes, cela a béni mon cœur tellement cette fin de semaine. Et je veux partager avec vous. Et c'est à vous qu'il parle, justement. Voici la citation. Il se peut qu'il y ait des gens dans différents pays, partout dans le monde, qui seront même rejoints dans leur foyer ou dans leurs églises par cette bande. Nous prions, Seigneur, qu'au cours de la réunion, ou pendant qu'on fera jouer la bande, ou quelle que soit notre position ou notre état, puisse le grand Dieu du ciel honorer la sincérité de nos cœurs ce matin et guérir ceux qui sont dans le besoin, leur donner ce dont ils ont besoin. Fin de la citation. C'est nous. Alors, peu importe la condition dans laquelle vous êtes, peu importe où vous êtes, dans votre maison, dans votre voiture, dans votre église, peu importe où vous êtes, Dieu va répondre à votre besoin que vous avez dans votre cœur. Je le crois avec tout ce qu'il y a en moi. Dans quel jour vivons-nous? J'aimerais vous partager. Dieu fait quelque chose de très spécial dans ce temps de la fin. Oh oui, il le fait. Pas parce que je le dis, parce qu'il l'a dit. N'êtes-vous pas heureux de faire partie de cela? Nous sommes dans le temps de la fin, là, alors qu'il doit y avoir une résurrection et un enlèvement. Là. L'enlèvement de l'épouse, nous sommes rendus là, nous sommes à ce temps.
That, you know how, when Brother Branham said that,
vous savez comment Frère Branham a dit, comme Jésus descend, il descend avec un cri,
Amen.
Une voix et une trompette.
He says, what is the shout?
Quel est le cri?
It's the message going forth.
C'est le message qui est proclamé premièrement. Le pain de vie vivant manifestant l'épouse.
Amen.
Fin de la citation.
What is the shout?
Quel est le cri?
It's a message.
C'est un message pour rassembler les gens.
Oh my, isn't that beautiful?
N'est-ce pas merveilleux?
A message comes forth.
Un messager est proclamé
now,
premièrement. C'est le temps de
Amen.
La préparation des lampes.
What is the shout? He says,
qu'est-ce qu'un cri?
It's a messenger getting
c'est un messager
ready.
Qui prépare les gens.
Amen. We're at that time.
Nous sommes à
and
ce
I'd like
temps.
To share with you this
et j'aimerais
little.
Vous partager mm-hmm. cette petite citation.
So beautiful.
C'est tellement merveilleux.
Frère
Branham dit ceci.
He says, in 1956, he says, we are at the end time.
And that's nous sommes
where we are standing today.
Et c'est là où nous sommes aujourd'hui, un réveil mondial. C'est le signe de la venue du Seigneur Jésus. Il viendra et il ne peut pas venir avant que l'Église ait été prêchée dans chaque nation. Et ils l'ont au moins
reçu.
Pas toutes les nations, mais chaque nation l'a entendu. Quand cet évangile aura été prêché dans toutes les langues des nations, alors ce sera la fin. Loué soit le nom du Seigneur. Fin de la citation. C'est là où nous en sommes. Je le crois. Pour ce message ce matin, vous êtes identifié dans ce message.
Brother Branham is going to call you out.
Frère Branham va vous appeler.
He's going to tell you exactly
il va vous dire exactement qui vous êtes.
And this is what he's going to tell you.
Et voici ce qu'il va vous dire.
He's going to tell you
il va vous dire
that you are tape people.
Que vous êtes des gens qui écoutent les bandes. C'est moi.
Amen.
Loué soit le nom du Seigneur, c'est moi, je suis une
Amen.
Personne qui écoute les bandes.
God bless you.
Que le Seigneur
Praise
vous bénisse. Loué soit le nom du Seigneur.
Il
y a une autre situation sur ce sujet. C'est dans le message Les âmes qui sont en prison.
And Brother Branham said it's
et Frère Branham dit ce sont des.
Les
gens
so
qui écoutent les bandes sont les gens qui sont en train d'écouter cette bande. Et nous sommes des gens de bande. Nous écoutons ce message aujourd'hui. Dans ce message paradoxe, excusez-moi.
Brother Branham says this
Frère Branham dit cette citation. La promesse a été donnée avant la loi, sans aucune condition. Je vous ai donné ce pays. Aller dedans. Et avant qu'ils n'atteignent cette promesse, ils ont décidé qu'ils devaient faire quelque chose eux-mêmes. Et cela, nous voyons encore parmi les êtres humains. Nous devons faire quelque chose. Nous pensons que nous devons également y mettre notre grain de sel. Vous avez effectivement quelque chose à faire. C'est d'abandonner votre propre volonté, vos propres idées à la volonté, à la pensée de Dieu Tout-Puissant. Et c'est terminé. Fin de la citation.
Amen.
Amen.
Praise the Lord.
Loué soit le Seigneur.
Brother Branham says in the same message,
Frère Branham dit dans le même message, il dit ceci. Mais remarquez juste avant leurs entrées dans la terre promise, toutes les différences qui se sont élevées parmi eux. L'un des grands différents était Corée. Il ne voulait pas cette conduite d'un seul homme, Dathan, et comment ils se présentèrent devant Moïse. Ils essayèrent de lui dire que le message devait vouloir dire ceci. Et ils ont mis une interprétation différente, leurs propres idées de ce que c'était.
Et
ils ont tous péri, tous. Fin de la citation.
We just want to surrender everything.
Nous voulons seulement nous abandonner complètement à lui. Ça n'a pas d'importance ce que je pense. Ça n'a pas d'importance ce que moi je pense. Ça ne fait aucune différence. Dieu a un prophète confirmé. Dieu a une voix confirmée. Et ça a été prononcé. Et c'est ce que c'est. Ça règle la question. Amen. Loué soit le Seigneur.
We believe it's a one-man message.
Nous croyons au message d'un seul homme.
Praise the name of the Lord. God bless you.
Que le Seigneur vous bénisse.
May we seated.
Vous pouvez vous asseoir.
If you just give me a few minutes,
si vous pouviez seulement m'accorder quelques minutes.
There's a paradox that just happened.
Il y a un paradoxe qui vient d'arriver. J'aimerais seulement vous partager, si vous m'accordez une minute, et ensuite nous allons aller dans la prière dans quelques instants. Mais l'autre jour, il y a quelques semaines,
vous
vous souvenez de cette sœur qui avait le Seigneur l'a complètement guéri. Ce n'est pas arrivé d'un jour à l'autre, mais c'est arrivé quand même. Il y a trois semaines, je ne me rappelle plus il y a combien de semaines, ça n'a pas d'importance. Mais nous avons trouvé quelque chose qui faisait peur. Nous sommes venus à l'église et nous avons écouté le message. La nourriture au temps convenable. Et dans cette bande, il l'a appelé et lui a dit exactement sa condition. Et peu importe ce que c'était, mais il l'a appelé. Et je suis rentré à la maison. Elle a dit, qu'est-ce qu'il y a à propos de cela? Et j'ai dit, Frère Branham, t'as appelé sur cette bande. Elle a dit, il l'a fait. Il dit, oui, va écouter la ligne de prière lorsqu'il appelle cette femme. Elle avait quelque chose dans sa poitrine. Il t'a appelé. Ah, je le crois. Alors, ça a continué pendant une semaine. Et je lui ai demandé la permission cette semaine. Parce que je ne crois pas qu'elle aurait voulu que je le dise. Elle m'a dit de demander la permission. Et le plus que je priais, le plus j'avais envie de vous le partager. Alors, j'ai demandé sa permission. Elle m'a dit, tu peux le dire si tu veux. Alors, c'est tout pour la gloire et l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Alors,
oui. Went about a week or so.
Nous avons continué pendant une semaine et j'ai dit, chérie, je crois que tu dois aller chez le docteur. Mais je suis déjà guéri. J'ai dit, amen, je crois cela, absolument. Mais je crois que nous devons aller quand même vérifier chez le docteur s'il y a quelque chose à faire. Alors, nous avons eu notre réunion et le dimanche dernier, nous avons entendu ce message. Et sur cette bande, Frère Branham m'a dit, c'est terminé. Et il y a juste quelques jours, il y a un frère assis ici aujourd'hui. Il me partageait. Alors, nous sommes mis à parler de cela. Il m'a dit, souviens-toi juste de cela. Samuel, Frère Branham m'a dit que c'est terminé. Et ça l'a tellement encouragé mon cœur. Nous devons aller chez le docteur demain, le médecin. Et je me souviens de ce qu'il a dit. C'est terminé. Nous sommes rendus là. Elle est entrée.
They wouldn't let me go.
Et ils ne voulaient pas me laisser entrer.
And so,
alors,
anyhow,
de toute façon,
ils ont dit,
tu n'as peut-être plus besoin d'avoir des examens. Nous avons les résultats pour toi aujourd'hui. C'était un choc pour moi. Mais de toute façon, ils l'ont prise et ils ont dit, nous avons besoin d'avoir un autre examen. Et ils m'ont fait rentrer.
And I was just with her.
Et j'étais avec elle, et c'était seulement nous dans la pièce, et j'étais juste là. Vous savez, vous, les maris, nos femmes, nos épouses sont très importantes pour nous. Et elles ont une grande importance pour nous. Ce n'est pas juste de laver les vêtements et de préparer la nourriture. Elles sont si importantes pour nous. Elles pourvoient nos besoins, elles prennent soin de nos enfants, elles prennent soin de nous. Elles sont des petites prédicatrices, comme Frère Branham dit. Elles pointent continuellement les enfants vers la parole. Le Proverbe 31 parle comment une femme, une épouse est importante et nous sommes si fiers de vous, les sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Mais de toute façon, j'étais assis là et je me tenais là alors qu'elle... Et je l'ai pris par la main. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur,
I don't care what those doctors
ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que ce médecin peut dire? Je me fous des résultats. Ça n'a aucune importance pour moi.
I believe your prophet.
Je crois ton prophète.
And the angel came to him,
et l'ange est venu et lui a dit, si tu aimes les gens, te crois. Rien ne tiendra devant ta prière, même pas le cancer.
Lord, I believe
et Seigneur, je crois à ce prophète.
And I believe this message with all of my heart.
Et je crois ce message de tout mon cœur.
And you said in your
et tu as dit
you
dans ta parole,
to say what you said.
Tu m'as dit de dire ce que tu as dit.
And you said, by
et tu
your
as dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alors elle est
your
guérie.
Prophet said it was finished.
Ton prophète a dit que c'était
so
terminé dimanche passé. Alors c'est
and
terminé.
I believe that with all of my heart.
Et je le crois de tout mon cœur.
Doctors, nurse come in.
Les médecins et les...
Les infirmières
sont venues. Ils avaient cette grand écran pour que vous puissiez voir toute la chose. Il a regardé, il ne pouvait rien trouver. Alors je la regardais aussi. Il a regardé à nouveau. Il n'y avait rien là. C'était parti. Ce n'était pas là.
So praise the Lord.
Alors loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur.
Praise the Lord.
Loué soit le Seigneur.
Just remain standing, please.
Si vous pouvez seulement demeurer debout.
It's for the glory of the Lord Jesus.
C'est pour la gloire du
more quote, and then
Jésus.
I'll
encore une citation et je vais arrêter.
But that
ceci.
We might see you again.
Mais pour que nous puissions te voir encore et nous laisser savoir que cette parole que tu as prononcée qui circule toujours autour du monde, juste comme un enregistrement, laisse-nous entrer dans cet enregistrement aujourd'hui, Seigneur. Laisse-nous entrer et non pas seulement entendre cela comme étant secondaire de la bouche d'un homme, mais que cette bouche, cette personne et ces gens, tous ceux qui sont assis ici, deviennent ta parole. Nous sommes prêts à mourir, Seigneur, à nos propres idées, juste pour te voir, tenir ta promesse.
Aren't you so happy you're a part of that bride?
Amen.
Become a part of that word, Lord.
Devenez une partie de cette parole, Seigneur. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Et il est ici pour nous accorder cela. Il est ici.
Alléluia. Il est ici.
Tendre Père Céleste, quel honneur cela est que nous puissions incliner nos pères, nos têtes et te parler, Seigneur. Et nous voulons parler en étant en ordre devant toi. Et ce monde est en train de s'écrouler avec des maladies et les familles s'écroulent, Seigneur. Et comme notre frère Samuel a dit, c'est terminé. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Et ces requêtes de prière qui ont été mentionnées devant toi, Seigneur. Et ceux qui sont sur la ligne à l'écoute, Seigneur, ou dans les églises à travers le monde, dans leur maison, Seigneur, nous demandons seulement que tu sois avec eux, que tu les touches, Seigneur, que tu les aides, Seigneur. Peu importe la situation dans laquelle ils sont, je prie que tu sois avec eux. Seigneur, nous savons que c'est aussi facile pour toi, Seigneur, de nous amener au-dessus de l'épreuve que nous faire passer au travers, Seigneur. Nous prions que tu nous accordes la grâce, Seigneur, pour passer à travers, Seigneur, que nous puissions tenir ta main toujours élevée, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons demander que tu sois avec notre frère Joseph. Oh, Seigneur, nous le ressentons, tout ce fardeau dans nos cœurs pour lui, Seigneur, et nous demandons seulement que tu le oignes, Seigneur, car c'est un temps difficile pour lui, Seigneur, que tu l'aides, Seigneur, que tu lui donnes cette portion, Seigneur, que tu lui laisses savoir que nous l'aimons et que tu l'aimes, Seigneur. Seigneur, nous te remercions et que tu aies répondu à chacune de ces demandes, Seigneur, et nous le demandons dans le précieux nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Oui, ici. Alléluia. Il est ici. Amen. Il est ici.
Combien d'entre vous sont heureux d'être dans la maison du Seigneur cet après-midi? Juste dans mon cœur, combien de vous apprécient notre frère Samuel, sa position? C'est un véritable serviteur que nous avons. Combien d'entre vous vivent par la foi? Faisant confiance en son grand amour.
Ne m'importe ce que le lendemain peut m'apporter.
De l'ombre du soleil ou de la pluie. Le Seigneur que je connais règne sur toutes choses. Et tous mes soucis sont en main.
Oh,
je vis par la foi. En Jésus d'en haut.
I'm trusting, confiding.
Croyant confiance en son grand amour. À l'abri de tout danger, dans ses bras protecteurs, je vis par la foi. Et je n'ai aucune crainte.
Precious Heavenly Father, what an honor it is calling your name.
Quel honneur, Seigneur, de pouvoir appeler ton nom aujourd'hui, Seigneur. Que tu nous aimes, tu nous as aimés, que tu nous as guéris, Seigneur, que tu nous as sauvés. On te remercie tellement, Seigneur. On te remercie pour ces dîmes et ces offrandes, Seigneur. Seigneur, nous regardons à ce message, Seigneur, que nous avons ressenti. Nous attendons. Tu nous aimes tellement. Quel paradoxe, Seigneur. Nous avons échoué si souvent. Bénis ces dîmes, bénis ces offrandes, Seigneur.
Et
dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
The tempest may blow and the storm clouds arise.
Bien que la tempête puisse faire rage et que les orages puissent se lever pour obscurcir la lumière de la vie, je ne m'inquiète jamais du ciel couvert. Le maître s'occupe de la bataille. Je vis par la foi en Jésus d'en
haut,
croyant, confiant en son grand amour. À l'abri de tout danger, dans ses bras protecteurs, je vis par la foi et je n'ai aucun
crainte.
Je sais qu'il me mènera à mon port. Ce que les voilà peut-être, pourquoi devrais-je m'en soucier même si la tempête fait rage, si Jésus marche à mes côtés? Je vis par la foi en Jésus d'en
haut,
croyant, confiance en son grand amour.
And from all harm safe,
à l'abri de tout danger,
oh, it is sheltering on,
dans ses bras protecteurs,
and I'm living by faith,
je vis par la foi,
and I feel
et je n'ai aucune crainte. Notre Seigneur reviendra sur cette terre un jour. Nos ennuis seront alors tous terminés.
The Master so gently will lead us away.
Le Maître nous conduira si doucement sur le point au-delà de ce rivage céleste et béni.
Oh, I'm living by faith.
Je vis par la foi.
En
Jésus d'en haut,
oh, trusting, confide,
croyant, confiance en son grand amour,
and from all harm safe,
à l'abri de tout danger,
oh, in his sheltering arms,
dans ses bras protecteurs. Par la foi,
and I feel no
et je n'ai aucune crainte.
And he's wonderful,
merveilleux, Jésus est pour moi.
He's a conseiller,
le plus puissant,
le prince
de la paix. Il me sauve et il me garde, à lui à jamais.
Oh,
merveilleux est mon Sauveur,
Christ. Oh, yes, he's wonderful,
merveilleux, Jésus est pour moi.
He's a conseiller,
le puissant, prince de la
paix.
Il me sauve et il me garde, à lui à jamais.
Oh,
merveilleux est mon
Sauveur, Christ. I once was lost,
libre de toute condamnation. Jésus donne la liberté et un plein salut. Maintenant, les péchés du passé ont tous été pardonnés.
Oh, wonderful is my Redeemer, praise.
N'est-il pas merveilleux?
Jésus est pour moi, conseiller de toute façon, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu.
Jesus, oh my name, and oh yes, I need every hour. Oh, and through
diverses peines, protège-moi par ta puissance.
Oh,
par ma faible demande, oh Seigneur, regarde-moi. Je nomme ce méchant, j'espère te rencontrer. Seigneur Jésus, t'es ma
mère.
Jésus, tu es ma mère. J'ai besoin
de toi.
À travers ce pays, protège-moi de ta puissance. Entends ma faible demande. Oh Seigneur, regarde vers moi. Quand je tombe sur mes genoux, j'espère te rencontrer. Seigneur Jésus, t'es ma mère.
And as I travel through this pilgrim land,
comme je voyage à travers ce pays de Belleville, j'ai un ami qui marche avec moi.
Oh yes, he leads me.
Il me conduit en toute sécurité à travers les sables mouvants. C'est Christ du Calvaire. Ceci est ma prière, cher Seigneur, que chaque jour tu m'aides à faire de mon mieux. Car j'ai besoin de ta lumière pour me guider jour et nuit. Jésus béni, tiens ma main.
Oh my hand, yes,
Jésus, tiens ma main. J'ai besoin de toi en tout temps. Traverse le pays, protège-moi par ta puissance. Par ma faible demande, ô Seigneur, regarde-moi. Quand je tombe sur mes genoux, j'espère te rencontrer. Seigneur Jésus, t'es ma mère.
Laisse-moi voyager dans la lumière divine, que je puisse voir le chemin béni. Garde-moi pour que je sois entièrement à toi, et que je puisse chanter les chants de la rédemption ce jour. Je serai un soldat courageux et vrai, et toujours ferme dans ma position. Comme je vais de l'avant et fais face à toutes les choses à l'ennemi, Seigneur Jésus, tiens ma main.
Jésus, tiens ma main. Oh, j'ai besoin de toi tout le temps.
Oh,
traverse le pays, protège-moi par ta puissance. Entends ma faible demande, oh Seigneur, regarde-moi. Quand je tombe sur mes genoux, je sais que tu vas répondre. Seigneur Jésus, t'es ma vie.
Quand je me promène dans la vallée vers le soleil se couche, conduis-moi en toute sécurité dans une terre de repos. Si j'ai une couronne de vie à gagner, j'ai mis ma foi en toi, cher Seigneur, pour que je puisse atteindre une ville d'or. Il n'y a aucun autre ami sur qui je peux dépendre. Seigneur Jésus, tiens ma main.
Jésus, tiens ma main. J'ai besoin de toi en tout temps. À travers ce pays, protège-moi par ta puissance. Par ma faible demande, ô Seigneur, regarde-moi. Quand je tombe sur mes genoux,
Tapons-le des mains. Je suis tellement heureux qu'il tient ma main. Il n'y a pas d'autres amis sur lesquels je peux dépendre, à moins que Jésus tienne ma main. Je suis tellement reconnaissant d'être une partie avec vous, Seigneur, une partie de l'épouse, Seigneur Jésus-Christ. Je suis tellement reconnaissant pour sa miséricorde, sa grâce. Peu importe comment je tombe, il est toujours là pour me relever. Et véritablement, c'est sa miséricorde qui a réécrit ma vie. La grâce a réécrit ma vie.
La grâce a réécrit ma vie. Thank you.
light of you.
Préparons nos cœurs à entendre la voix de Dieu nous parler maintenant.
Vous pouvez vous asseoir. J'ai attendu longtemps pour revenir ici à Phoenix. Je suis très heureux d'être ici cet après-midi. Quand je suis à Phoenix, il y a quelque chose qui me fait toujours sentir que je suis assis parmi des gens qui sont mes amis, qui m'aiment. C'est une grande prière des soldats qui viennent ici pour prier pour moi depuis des années. Je vais toujours me souvenir de la première réunion que j'ai eue ici avec Frère Outlaw, Frère Garcia et les ministres de cette ville. Comme le Seigneur a vraiment béni mes premières réunions quand j'étais dans mes débuts. Depuis, Phoenix a tenu bon. Il y a quelque chose dans mon cœur, c'est difficile à l'expliquer. Lorsque j'étais un jeune garçon, j'ai toujours voulu venir à Phoenix. Je lisais toujours à propos du désert. J'avais écrit un petit poème sur ce sujet quand j'étais un jeune garçon sur l'Arizona. Je suis si heureux d'être un natif maintenant. J'ai à peu près un an, et peut-être un peu plus. Mais on n'en trouve pas beaucoup plus vieux que ça. Tous ceux que je croise, je leur dis, êtes-vous d'ici? Eh bien, autant qu'il y en a, je suis ici depuis si longtemps. Et je suppose qu'il faudrait que j'aille dans la réserve Apache ou quelque part pour trouver un vrai natif. Quelqu'un a dit, il n'y a pas longtemps, « Frère Branham, comment aimes-tu l'Arizona? » J'ai dit, « Bien, cela a été l'une de mes plus grandes expectatives de toute ma vie, de vivre en Arizona, et Dieu me l'a accordé. » Nous sommes ici juste avant la Convention des hommes d'affaires, qui est devenue une activité annuelle pour nous. Et cet après-midi, alors que nous sommes réunis ici pour une réunion avant la convention qui, je crois, commence jeudi soir, cela a été mon privilège au cours des dernières années de venir et d'avoir ces petites réunions avant que la vraie réunion ne commence, la convention ne commence. Et Frère William est un très cher ami, lui et Sœur William. J'ai certainement une place spéciale dans mon cœur pour ces gens. Ils m'invitent constamment à revenir et nous sommes donc heureux de répondre à cette invitation cet après-midi. Également sur l'estrade, Frère Fuller, Frère Jewel Rose, Frère Tony Stromy de Tucson, et Frère Borders, notre directeur de campagne, et un précieux bon vieux frère, Argan Bright. Nous avons été ensemble dans de nombreux durs combats. De l'autre côté de la rivière, j'espère habiter avec lui, de l'autre côté de la grande rivière, un jour. J'ai essayé, mais je n'arrive pas à me rappeler le nom du frère. Quel est ton nom, frère? Buller, frère Buller. Je reconnais son visage, et n'es-tu pas aussi celui qui m'interprète parfois pour les sourds? Et nous sommes si heureux de vous avoir tous ici. Je regardais juste ici en bas devant moi, et je vois quelques-uns de mes amis qui viennent de l'Arkansas ici. Quand j'étais ici la première fois, je vous ai dit que partout où j'allais, je trouvais quelqu'un de l'Arkansas. Je suis sûr que si j'arrive un jour au ciel, j'en trouverai de l'Arkansas, parce qu'ils ont certainement été des gens fidèles et loyaux. Et maintenant, d'habitude, je parle longtemps, mais j'ai fait de mon mieux pour préparer mes écritures et mes notes afin de ne pas parler trop longtemps. Et je veux prier pour les malades pendant que je suis à Phoenix. Maintenant, le message que j'ai, que le Seigneur m'a assigné, c'est parfois, vous savez, que ces choses deviennent assez délicates. Et ça a été comme ça dans tous les âges. Et j'ai fait de mon mieux pour rester avec cela. C'est quelque chose. Et si je ne parlais pas de ce que Dieu m'a dit, et si ce n'était pas de Dieu, alors ce ne serait pas dans la parole. Mais si c'est dans la parole et une promesse pour cette heure-ci, alors je sens que je fais ce qui est juste, parce que j'essaie seulement de tenir ce qu'il a promis pour cette heure-ci. Et souvent, quand vous avez un malentendu avec quelqu'un sur sa théologie, il se fâche après vous immédiatement. Mais ça ne devrait pas arriver. Je trouve des amis à moi qui sont tous de différentes églises dénominationnelles et ainsi de suite, et je ne me fâche jamais avec ces frères. Oh là là, je vais dans leur église partout où ils me laissent venir et parler. Mais on ne devrait pas se fâcher pour des petites idées. Mais vous savez, si je disais autre chose que ce qu'il y a dans mon cœur, je serais un hypocrite. Et loin de là, je devrais peut-être le rencontrer un jour en tant que pécheur, mais je ne veux certainement pas le rencontrer en tant qu'hypocrite. Mais je veux être fidèle, et si je viens de dire, eh bien, je vais juste omettre ceci parce que les autres croient ceci, cela, alors quel genre de personne suis-je? Vous ne pourriez pas avoir confiance en moi. Je ne pourrais pas avoir confiance en Dieu ou en moi-même si je faisais des compromis si facilement. N'importe qui doit avoir quelque chose dont il est certain. Et c'est là que vous pouvez fonder votre foi. C'est quand vous êtes sûr. Mais jusqu'à ce que vous soyez sûr, s'il y a une question, laissez-les cela tranquille jusqu'à ce que vous soyez sûr. Maintenant, Billy a probablement distribué des cartes de prière, ce que je pense qu'il... Oui, je lui ai dit de le faire. Et je crois qu'il m'a dit il y a un moment qu'il l'avait fait. Quelque part de ce côté-ci, j'avais en appelé quelques-uns pour la ligne de prière au bout d'un certain temps, pour qu'on prie pour eux. Et si votre carte n'est pas appelée, si elle est appelée plus tôt et que vous n'êtes pas sûr que Dieu est le guérisseur et qu'il va vous guérir, cela ne vous servira à rien de venir ici, parce que vous ne serez pas guéri. Vous, si vous avez une question, vous dites, eh bien, s'il y a quelque chose dans ma vie, je devrais vraiment arranger ça. Allez régler ça premièrement et ensuite revenez dans la ligne de prière, voyez? Car la guérison est le pain des enfants. Nous en sommes conscients. C'est dans l'expiation, et l'expiation est premièrement appliquée à nos âmes. Et la guérison a toujours été précurseur de tout message, et cela a été aussi un moyen de rassembler les gens. Et c'est un... Beaucoup de gens vont parrainer une réunion de guérison. Beaucoup viendront à une réunion de guérison ou à un festival de chant. Mais quand il s'agit d'une pauvre âme perdue qui a besoin d'être sauvée, il n'y a pas beaucoup de gens intéressés par cela. Ils sont juste... Mais c'est la chose principale. La guérison divine et les festivals de chant, et ainsi de suite, c'est juste. Comme frère Bosworth avait l'habitude de dire, c'est la part sur l'hameçon. Et vous montrez la part au poisson, pas l'hameçon. Et c'est ce qu'il faut faire pour amener les gens à écouter un peu jusqu'à ce que vous puissiez vraiment leur présenter votre message. Dieu fait cela dans tous les âges, à travers tous les âges, il y a toujours eu une campagne de guérison. Et si c'est une campagne de guérison authentique, cette campagne sera toujours suivie d'un message. Un signe n'est jamais donné juste pour donner un signe, c'est le précurseur d'un message. Et je crois que c'est la même chose, il y a 17 ans, ou 18 ans maintenant, que le Seigneur m'a envoyé pour commencer à prier pour les malades. Cela a fait un grand réveil parmi les gens. Beaucoup de grands serviteurs de Dieu sont sortis des campagnes de guérison. Mais les campagnes de guérison en elles-mêmes, si vous restez dans la même vieille tendance que vous avez toujours été, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette campagne de guérison n'a pas été envoyée par Dieu. Elle doit attirer l'attention premièrement. Voyez, attirer l'attention, puis vient le message. Jésus, lorsqu'il est sorti guérissant les malades et ainsi de suite, fut un grand prophète pour eux tous. Mais quand il commença à leur dire la vérité de l'Évangile, qui il était et pourquoi il est venu, alors il n'était plus populaire après cela. Et c'est ainsi que les choses se sont toujours passées dans tous les âges, et ça sera toujours comme cela. Maintenant, nous sommes ici cet après-midi, et demain après-midi, dans ce même auditorium, tout commence à 7 heures, n'est-ce pas, frère? 19h30, demain après-midi ou soir, puis mardi soir, et je pense aussi mercredi soir, au Ramadan, mercredi, et puis jeudi, c'est vrai, c'est le début de la convention. Et si le Seigneur le veut, je veux être ici pendant tout ce temps. Je suis ici, votre frère, une aide dans le royaume de Dieu, pour vous donner toute l'aide que je peux. Pour répondre à vos questions, je ne pourrai peut-être pas le faire, mais dans la prière, nous comprendrons probablement si nous prions à ce sujet et allons vers Dieu à ce sujet, et non pas en tirer nos propres opinions. Si vous êtes malade, j'aimerais pouvoir vous guérir, mais aucun homme ne peut faire cela. C'est déjà fait. La guérison réside en vous. C'est votre foi dans les œuvres achevées que Dieu a faites au calvaire avec Jésus-Christ. Et en dehors de cela, il n'y a pas de guérison. Et en dehors de cela, il n'y a pas de salut. Pas d'église, pas de dénomination, pas de rituel. Rien n'apporte le salut. Jésus-Christ, il était blessé pour nos transgressions. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Il était blessé pour nos transgressions, par ses meurtrissures que nous avons été. C'est tout au temps passé. Nous avons été guéris. Maintenant, sur cela, je n'ai que quelques instants pour vous parler cet après-midi, probablement 20-30 minutes, et ensuite nous allons faire une ligne de prière. Chaque jour, comme d'habitude, de nouvelles personnes viennent, alors de nouvelles cartes de prière seront distribuées. Mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, tout ce que Dieu nous permettra de faire, pour prier pour chaque malade qui vient, qui désire que l'on prie pour lui. S'il y a une personne qui est venue par avion, qui est mourant, qui est en situation d'urgence, quelque chose comme ça, alors vous pourriez aller voir frère William, Billy Paul ou certains d'entre eux pour les mettre dans une pièce, car ils ne peuvent pas s'asseoir, ils sont mourants, ils doivent être soignés immédiatement. Eh bien, mettez-les dans une pièce pour que je puisse aller les trouver tout de suite. Mais c'est beaucoup mieux si vous n'êtes pas dans cet état d'urgence que vous preniez juste votre credo, vos credos et vos croyances et que vous les mettiez de côté quelques minutes, juste assez longtemps pour écouter ce que dit l'Écriture et ensuite ce que Dieu fait concernant ce qu'il a promis. Et cela fera grandir votre foi. Et vous n'aurez même plus besoin d'être dans une ligne de prière ou que quelqu'un prie pour vous. Vous êtes déjà guéri si vous pouvez seulement le croire. Voyez? Et c'est le but de la chose, c'est de vous laisser, de vous faire prendre conscience de ce que Jésus a fait pour vous. Et il n'est pas nécessaire de vous avancer ici, de vous agenouiller, de prier jusqu'à ce que vous soyez sauvés. Vous êtes déjà sauvés, mais vous devez l'accepter. Vos prières ne le font pas. C'est par la foi que vous êtes sauvés, pas par la prière. Mais car c'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est la même chose pour la guérison. Je suis sûr que nous le comprenons tous. Et s'il y a des étrangers parmi nous, nous voulons que vous sachiez que pour moi ou pour ce groupe avec lequel je suis ici, les hommes d'affaires du plein évangile, nous ne représentons aucune organisation dénominationnelle, nous ne représentons que les croyants chrétiens de toutes les dénominations. Tout le monde est le bienvenu. Nous sommes heureux de vous avoir. Vous dites, « Eh bien, j'appartiens à une certaine église. Pourrait-on prier pour moi? » Vous n'avez même pas besoin d'appartenir à une église. Vous n'avez rien d'autre à faire que de venir ici et croire en Dieu. C'est tout ce que vous avez à faire. Dieu s'occupe du reste. Maintenant, j'ai complètement usé une Bible depuis que j'ai commencé les campagnes de guérison, plutôt en priant pour les malades. À Houston, Texas, Frère Kitson et son groupe m'ont donné une Bible. Il y a des années, il y a environ 18 ans, j'ai porté cette Bible partout dans le monde entier jusqu'à ce qu'elle s'use complètement des pages en sorte. On vient de me donner une nouvelle Bible, et la chose étrange, je ne suis pas superstitieux, j'espère que vous ne pensez pas que je suis superstitieux. Quand cette Bible m'a été donnée, il y avait deux petits signets, deux petits rubans. C'est une Bible comme celle que j'avais. Le frère Kitsum m'en a donné une qui était une Bible Scofield. Non pas parce que je suis d'accord avec M. Scofield dans ses notes. Maintenant, probablement que certains d'entre vous le sont, d'autres non, mais je vous fais juste savoir que je ne prends pas la Bible Scofield parce que je crois cela, parce qu'il a tellement mis de notes que c'était l'une de mes premières Bibles et j'ai appris à la lire comme ça. Et je garde simplement la même Bible. Si j'avais eu la Thompson Chain, cela aurait été bien mieux. J'aurais pu trouver mon texte beaucoup plus rapidement à l'aide de références de Thompson Chain. Mais quand j'ai ouvert la Bible, le premier petit ruban de la Bible, c'était très étrange l'endroit où il se trouvait. C'était quand Salomon a consacré le temple de Dieu et la gloire de Dieu était si grande, la gloire de Shekinah dans le bâtiment, au point où les sacrificateurs ne purent même pas y rester pour faire le service. Et l'autre ruban était posé là où Esdras revint et il consacra le temple. Et le troisième petit signet que ma femme avait pris et qu'elle avait mis dans la Bible sans le savoir, avec mon nom dessus, et ainsi de suite, était placé à Marc 11, 22. Elle l'a simplement mis dans la Bible, et c'est là qu'il était, « Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et vous savez tous ce que cette écriture représente dans ma pensée, vous qui écoutez la bande, c'est là que ces écureuils ont été créés dans le... » C'est exactement ça. Et ce qui était étrange, c'est que mon oiseau préféré, le rouge-gorge, était imprimé sur le signet, le petit oiseau à la poitrine rouge. La légende raconte qu'un jour, il était un oiseau brun, mais il y avait un homme mourant un jour sur une croix. Et il se sentait tellement désolé pour cet homme, au point où il a essayé d'arracher lui-même les clous. Et il a eu du sang partout sur sa petite poitrine, et depuis, il a la poitrine rouge. Moi aussi, c'est ainsi que je veux rencontrer mon Sauveur, avec son sang à l'intérieur de ma poitrine, sur mon cœur. Et puis, ma première réunion, le message que je vais prêcher ici, est à Phoenix, en Arizona. Phoenix, c'est quelque chose qui peut sortir de rien, c'est ce que Dieu fait. Il prend quelque chose qui n'est rien et il en fait quelque chose. Et cet après-midi, mon message s'intitule, pour les 30 ou 40 prochaines minutes, « Paradoxe ». Et je veux lire un passage d'une écriture qui, il y a quelques années, je prenais une Bible et je vous laissais me donner la Bible. Lorsque j'ai commencé mon ministère et je prenais votre Bible, et beaucoup d'entre vous m'ont vu faire cela, je la tenais ouverte comme cela et je disais, « Seigneur, où est mon message? » Ça s'est ouvert à Josué, au premier chapitre, n'importe quelle Bible que vous me remettiez. Jusqu'à une nuit, vint une vision que vous connaissez, et que je vis descendre du ciel cette Bible et qu'une main avec un col au poignet, comme celle-ci a descendu les 9 premiers versets de Josué. C'est de là que je vais lire cet après-midi pour ma lecture ou ma lecture de l'Écriture. Mon texte se trouve dans le verset 10, et je veux dire le chapitre 10 et le verset 12. Avant qu'on ouvre la Bible, inclinons la tête un instant. Maintenant, avec notre tête et notre cœur inclinés, pensons à ceci. Ne laissons pas ceci être seulement une réunion ordinaire, nous en avons tout le temps, mais prions Dieu, chacun de nous, pour que celle-ci soit extraordinaire, de sorte que la présence de Dieu soit avec nous tout au long de la réunion. Père Céleste, nous sommes reconnaissants de ce grand et noble privilège d'être ici à Phoenix cet après-midi, réunis dans ce grand auditorium parmi ces gens. Et maintenant, nous sommes sur le point d'approcher la parole, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et que cela arrive à nouveau, Seigneur, que la parole soit faite chair, qu'elle se répande sur ton Église et ton peuple pour accomplir les promesses de cette heure-ci. Comme nous nous rendons compte que nous sommes à la fin du temps, le temps tire à sa fin, ils se font dans l'éternité et nous sommes sur la côte ouest. Et comme la civilisation a voyagé de l'est à l'ouest, il en est de même pour l'Évangile qui a voyagé avec elle. Et maintenant, il n'y a aucun autre endroit où aller que de revenir dans l'est. C'est terminé. Et nous prions, Père Céleste, que ce soit une grande heure pour nous tous, que nous puissions sentir la présence du Saint-Esprit, l'auteur de cette parole, de retour dans le bâtiment du tabernacle de chair, se manifester à nous dans le pardon de nos péchés, le pardon de notre iniquité, et avec l'assurance qu'il n'imputera pas le péché aux croyants, avec l'assurance de cela. Et aussi qu'il guérira nos infirmités et sortira les gens des fauteuils roulants et des béquilles et donnera la vue à ceux qui sont aveugles et l'extension de jours à ceux qui se meurent de maladies horribles comme le cancer et la tuberculose avancée et les maladies que nos médecins ne peuvent pas traiter. C'est au-delà de cela, mais Dieu, tu vas au-delà de toute recherche scientifique, tu vas au-delà de tout raisonnement. Accorde à tes serviteurs cet après-midi de parler et d'écouter ta parole sur le sujet, un paradoxe, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, dans la Bible, Josué, le premier chapitre, et Josué, le dixième chapitre, le premier chapitre au premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Tout lieu que tu fouleras la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée de Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'arrêta point de se coucher presque tout le jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de ses paroles. Maintenant, le sujet cet après-midi, un paradoxe. Maintenant, le mot paradoxe, comme je viens de vérifier la définition pour m'assurer que j'avais raison, le mot paradoxe signifie, selon Webster, que c'est quelque chose d'incroyable, mais c'est vrai. Ah, vous savez, nous avons entendu la vieille expression, la vérité est plus, comment disent-ils, la vérité est plus étrange que la fiction, parce que quand une personne dit la vérité, c'est parfois très étrange. Je connais un ami à moi qui est dans le Colorado. Il faisait une étude, il allait avoir une étude sur les wapitis. Il y avait 21 wapitis dans le troupeau. Et mon ami avait été à la chasse là-bas. Alors, les gardes-chasse sont arrivés. Et il avait payé très cher la conservation pour l'un de ses motoneiges afin de retourner faire cette étude sur les wapitis. Il a dit, « Vous n'auriez pas dû dépenser tout cet argent. Je peux vous dire combien il y a de wapitis là-bas. » Ils se sont simplement moqués de lui. Ils ont dit, « Combien? » Il a dit, « Il y en a 19. » Il a dit, « Il y en avait 21 et j'en ai tué deux d'entre eux. » Et le garde-chasse s'est moqué de lui. « Vous n'êtes autorisé qu'en tuer un. » Vous savez, il a dit, « Oui, oui, je sais que tu l'as fait. » Eh bien, dit-il, c'est ce que j'ai fait. Il y en avait 21, wapitis, j'en ai tué deux. Et le garde-chasse a simplement ri et reparti. Et c'est qu'il y avait 19 wapitis, vous voyez? Il s'est tourné vers moi, il a dit, « Voyez, pasteur, dites simplement la vérité, les gens n'y croiront pas. Vous voyez, dites simplement la vérité, alors c'est certainement plus étrange que la fiction. » Josué est un livre, en fait, c'est un livre de rédemption de l'Ancien Testament. Nous devrions considérer que Josué, c'est le livre de la rédemption, parce que la rédemption comporte deux étapes. La rédemption partout comporte deux étapes, c'est sortir de et entrer dans. Il faut deux étapes pour faire la rédemption. Sortir de, entrer dedans. Moïse représentait la loi qui les a fait sortir d'Égypte, tandis que Josué représentait la grâce qui les a fait entrer dans la terre promise. C'était d'une autre façon, c'était la loi et la grâce étaient deux aspects différents du commandement de Dieu. Maintenant, Moïse, la loi, les a fait sortir et Josué les a fait entrer. Cela s'applique aussi à notre jour. Maintenant, cela représente, tout comme ils étaient dans le voyage sortant d'Égypte pour entrer dans une terre promise, nous sommes aussi sortis d'un monde d'Égypte, le chaos, et nous sommes en route vers une terre promise. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de maisons. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Jean 14, sortir de, entrer dans. C'est la loi qui nous amène à reconnaître que nous avons tort, mais c'est la grâce qui nous pardonne. La loi n'a aucune espérance de rédemption parce que ni de l'accomplir. Elle ne comporte aucune grâce parce que la loi indique seulement que vous êtes un pécheur, mais la grâce vous dit comment en sortir. La loi est le policier qui vous a mis en prison, mais la rédemption est celui qui vient payer votre amende et sortir de et entrer dans la grâce. Les Éphésiens. Maintenant, dans l'Ancien Testament, nous trouvons la même chose. Je pense que ce livre de Josué convient. Une manière de le dire serait le livre des Éphésiens de l'Ancien Testament. Le livre des Éphésiens de l'Ancien Testament serait une bonne manière d'intituler ce livre de Josué parce que ça cadre bien avec ça. Maintenant, nous trouvons Josué représentant la grâce ou une propitiation qui ne pouvait pas exister tant que la loi existait. Pas plus qu'aucun message qui fait avancer les gens ne peut coïncider avec un message du passé. Il ne le fera pas. C'est là que vous avez des problèmes aujourd'hui. Jésus a dit, personne ne prend un habit neuf pour le mettre à un vieil habit, ou on ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Ils périssent. Cela les fait éclater. Ils ne peuvent pas le supporter. Et Josué ne pouvait pas du tout entrer dans son ministère avant le départ de Moïse. Ainsi, vous voyez le tout premier verset ici. Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi et fais entrer ce peuple dans la terre promise. Moïse, représentant la loi, avait servi son temps. C'est la loi qui avait servi son temps. Ils avaient vraiment commencé avec la grâce pour commencer. Avant d'avoir la loi, ils avaient la grâce. Pendant leur séjour en Égypte, sans loi, il n'y avait personne là-bas. Il n'y avait que les prêtres, etc. Mais ils n'avaient aucune loi. La loi n'avait pas encore été donnée. La grâce leur avait fourni un prophète. Et aussi, la grâce avait fourni une expiation, l'agneau sacrificiel. Nous allons y venir cette semaine sur le sacrifice, le sang, car c'est là que se trouve votre guérison. Donc, l'expiation avait été pourvue avant qu'il y ait une loi. La grâce était avant la loi, pendant la loi et après la loi. Donc, il y avait Josué, représentant la grâce, qui accompagnait la loi, mais ne pouvait pas être appliqué tant que la loi n'était pas à sa place. Ainsi en est-il du monde, de l'Église, en ce dernier jour. C'est arrivé comme ça. Cela a joué son rôle, mais vient un temps où cela doit cesser. Cela doit cesser. Il doit y avoir un Éphésien aussi pour ce voyage, tout comme il y en a eu pour les autres voyages. Il doit y avoir un Éphésien, un Éphèse, un Éphésien pour ce voyage. Observez. En quoi cette loi n'aurait jamais pu sauver un pécheur, comme je vous l'ai fait remarquer? Elle ne le pouvait pas. Par conséquent, la terre promise représentait un jour de grâce. Vous voyez, elle ne pouvait pas les faire entrer, prendre dans ce voyage. Si vous avez remarqué dans ce voyage-là, il y avait trois étapes dans leur voyage. La première était la préparation par la foi en Égypte sous l'agneau immolé. Puis, ils traversèrent la mer Rouge dans le désert, une séparation qui représentait une autre étape du voyage. Parce que sous la préparation, quand ils se sont tous préparés, puis quand ils sont arrivés à la mer Rouge, il y a eu un autre échec. Les gens ne croyaient pas, après avoir vu beaucoup de choses que Dieu avait faites, ils ne croyaient toujours pas. Et Dieu ouvrit la mer Rouge et les fit traverser, ce qui nous montre que tout le peuple a été baptisé sous Moïse, sous la nuée et la mer. Maintenant, ils ont été baptisés, ils se sont repentis, ils ont été baptisés, ils sont sortis pour marcher dans une nouvelle vie, dans un nouveau pays, parmi de nouvelles personnes, avec la main de Dieu sur eux. Mais ils sont finalement arrivés au point où, dans cette marche qu'ils avaient, qu'ils n'étaient plus satisfaits de marcher par la grâce. Ils voulaient avoir quelque chose qu'ils pouvaient faire eux-mêmes. Voilà ce que les gens pensent aujourd'hui de la guérison divine ou de n'importe quelle autre œuvre de grâce que de Dieu. Qu'il y a quelque chose que vous devez faire. Vous n'avez rien d'autre à faire que de croire, juste croire en Dieu. Mais eux, s'ils avaient seulement continué, la promesse ne leur a pas été faite en vertu de la loi. La promesse avait été faite avant la loi, sans aucune condition. Je vous ai donné ce pays, allez-y. Mais avant d'atteindre cette promesse, ils ont décidé qu'ils devaient faire quelque chose eux-mêmes. Et cela, nous le voyons encore parmi les êtres humains. Nous sommes enclins à être ainsi. Nous devons faire quelque chose. Nous pensons que nous devons également y mettre notre grain de sel. Vous avez exactement quelque chose à faire. C'est d'abandonner votre propre volonté, vos propres idées à la volonté, à la pensée du Dieu Tout-Puissant. Et c'est terminé. C'est tout ce qu'il en est. Juste prendre sa promesse, sans rien penser d'autre, marcher par elle, et Dieu s'occupe du reste. Or, il voulait une loi. Et Dieu vous donne toujours le désir de votre cœur. Il l'a promis. Mais nous découvrons, quand ils se sont détournés d'un pas de ce que Dieu leur avait promis au commencement, alors ce fut une épine dans la chair jusqu'à ce que la loi soit enlevée, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne et soit crucifié pour enlever la loi. Ce fut une épine dans la chair. Et tout ce que vous essayez de faire par vous-même contribuera toujours à votre déshonneur. Cela finira à votre désavantage. Croyez simplement en Dieu et cela règle la question. Ce que Dieu a promis, je suis le Seigneur ton Dieu qui guérit toutes tes maladies. Voyez? Il y a parmi vous qui sont malades, qu'ils appellent les anciens de l'Église. Il a promis que les œuvres qu'il a faites seraient faites dans son Église. Pourquoi devons-nous accepter des organisations ainsi de suite qui enlèveront ça du livre? Voyez-vous, cela devient une épine dans la chair. Et ici, à la fin des temps, nous retrouvons la chose encore, face à face chez les méthodistes, baptistes, presbytériens et qui d'autre? Vous ne pouvez pas continuer ainsi. Vous devez revenir au plein Évangile. Il a été fait pour l'homme complet, par un Dieu complet qui s'est fait chair et habité parmi nous. Nous savons que ces choses sont vraies. Maintenant, si nous remarquons, alors leur voyage dans le désert, c'est là qu'ils ont fait la plus grande erreur qu'Israël n'ait jamais commise avant le calvaire. C'était que dans l'Exode 19, ils ont accepté la loi au lieu de la grâce. Ils avaient la grâce. Ils avaient un prophète. Ils avaient un agneau immolé. Ils avaient la rédemption. Ils avaient traversé la mer Rouge. Ils avaient été guéris de leur maladie. Ils avaient eu de l'eau du rocher frappé. Ils avaient la manne du ciel. Tout ce dont ils avaient besoin leur avait été fourni. Pourtant, ils voulaient quelque chose d'autre. Maintenant, c'est un type parfait de nos Éphésiens d'aujourd'hui. Exactement. Nous sommes sortis de sous Luther, sommes passés par la sanctification sous les méthodistes et sommes entrés dans la restauration sous la Pentecôte. Exactement comme c'était pour le voyage dans le désert. Quand Dieu nous a fait sortir, nous avons très bien fait. Mais qu'avons-nous fait? Nous avons voulu être comme le reste d'entre eux. Maintenant, nous découvrons que la grâce est la seule chose qui nous fait traverser, jamais la loi. Josué est un type du ministère des derniers jours, vous voyez? Maintenant, rappelez-vous, ces trois étapes du voyage, tout ça a cessé. D'abord la loi, et tout devait cesser, de sorte que Josué, et Josué, c'est la même signification que Jésus, Jéhovah Sauveur, qui les a amenés du désert vers la terre promise. Je sais que beaucoup soutiennent, et je ne veux pas être en désaccord avec les érudits, mais beaucoup soutiennent l'idée que la terre promise représente le ciel. Ça ne pouvait pas représenter le ciel. Cela ne le pouvait pas, car il avait des guerres, des troubles, de la frustration et tout le reste dans la terre promise. Cela ne représente pas la terre promise. Mais remarquez, juste avant leur entrée dans la terre promise, tous les différents qui se sont élevés parmi eux, et l'un de grands différents était Corée, et ne voulait pas de cette conduite d'un seul homme, Dathan, et comment ils se présentèrent devant Moïse et essayèrent de lui dire que le message devrait vouloir dire ceci. Et ils ont mis une interprétation différente, leurs propres idées de ce que c'était. Et ils ont tous péri, tous. Jésus a dit, il n'y a aucun d'eux qui n'a pas péri. Ils ont dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. Jean 6, Jésus a dit, et ils sont tous morts. La mort signifie éternellement séparés. Ils sont tous morts, et pourtant, ils aimaient entendre le message. Pourtant, ils aimaient la manne qui tombait. Pas une autre manne, la véritable manne. Mais quand arriva le moment où Balaam sortit avec sa fausse doctrine, et il a dit, « Nous sommes tous un. Pourquoi ne pas simplement nous rassembler et laisser nos enfants se marier entre eux? Nous sommes une grande nation. Nous allons vous rendre grands avec nous. » Maintenant, n'importe qui avec une compréhension spirituelle normale peut voir exactement la même chose, même aujourd'hui. Les marier tous ensemble, et ce fut un péché impardonnable. Cela n'a jamais été pardonné à Israël. Mais ensuite, Josué a été suscité pour l'Exode. Maintenant, nous apprenons dans Apocalypse, le chapitre 6, je crois, oui, le chapitre 6 des sept sceaux, qui est supposé le livre qui est scellé avec sept mystères ou sept sceaux, Apocalypse 6. Et dans les derniers jours, dans Apocalypse 10, nous découvrons que Laodicée, le dernier messager du dernier âge, et que durant le temps de sa prophétie, les sept sceaux seraient ouverts, les sept mystères qui avaient été laissés en suspens.
The seven mysteries, seven old mysteries that have been left off in every age.
Dans chaque âge, il y en avait une partie laissée en suspens. Les réformateurs n'avaient pas le temps de s'en occuper. Au temps de Luther, il a seulement prêché la justification par la foi. Après son départ, ils ont formé une église. Après cela, vint Wesley qui prêcha la sanctification. Voilà, il y avait ensuite les pentecôtistes. Mais on nous a promis, selon Apocalypse 10 et selon Malachie 4 et Luc 22, 17 et ainsi de suite, qu'il doit venir un Éphésien pour cela. Cela est promis, mes amis. Il doit venir un Éphésien où ces sept mystères de la parole de Dieu doivent être dévoilés. Et c'est dans l'âge de Laodicée que cela se produit. Je crois que nous y sommes. Je crois que nous sommes juste à l'ombre de la venue du Fils de Dieu. Et comme pour Josué, juste avant que l'Éphésien soit suscité, Jean-Baptiste a été suscité juste avant le prochain Éphésien. Et il nous en est promis un autre Éphésien. C'est ce qui est prédit ici dans les Écritures. Je pense donc que nous vivons à nouveau dans les Éphésiens. De retour à nouveau. Il nous est promis ce qui a été laissé en suspens pendant ces sept âges. Là, vous ne pouvez rien ajouter au livre, ni rien en retrancher. Apocalypse 22, 18 le dit, si quelqu'un y ajoute un mot ou en retranche un mot, sa part du livre de vie sera retranchée. Ainsi, nous ne pouvons ni y ajouter, ni en retrancher. Par conséquent, nous savons que Luther ne pouvait pas se rendre jusque-là. Wesley et les autres, les réformateurs, Knox, Finney, Calvin, tout au long et tout, ils ne l'ont pas eu en entier. Mais ce qu'ils avaient était la vérité de l'Évangile. Mais là, dans les derniers jours, il nous a été donné de comprendre par la parole que nous allons le comprendre parce que ça deviendra un âge d'Éphésiens. Nous en sommes là. Bon, un paradoxe. Je vais laisser ça en suspens, car il ne me reste plus qu'une dizaine de minutes, puis nous aurons la ligne de prière, un paradoxe. Il y a des gens aujourd'hui qui ne croient pas aux miracles. Ils disent qu'ils ne peuvent tout simplement pas croire qu'il existe une telle chose que des miracles dans notre époque moderne. Eh bien, je ne veux rien dire de mal au sujet de cette personne, mais ils sont spirituellement engourdis. Ils sont spirituellement aveugles. Ils n'ont pas du tout de vision spirituelle ni de sentiment spirituel, parce qu'aucun homme ne peut s'asseoir dans une foule de gens sur laquelle le Saint-Esprit tombe, peu m'importe s'il est absolument un pécheur ou elle, là, ils vont forcément ressentir la présence de Dieu quand vous voyez la parole qu'il a promis s'accomplir. Alors, vous devriez être engourdi, et quand vous le voyez de vos propres yeux arriver, alors vous devez être aveugle spirituellement. Je ne parle pas physiquement, mais vous pouvez certainement être aveugle spirituellement et avoir une vue physique parfaite. Vous vous rappelez d'Élie à Dothan, lorsqu'il est sorti et a frappé toute l'armée d'aveuglement. La Bible dit qu'il l'a fait et il les mena droit dans une embuscade alors qu'il ne savait pas qui il était. Et pourtant, il ressemblait exactement à ce quoi il était censé ressembler et tout. Et il est allé directement vers eux. Mais il était aveugle. Et vous pouvez vous tenir dans la présence du Dieu vivant. Vous pouvez vous tenir sous l'onction de l'Esprit et le voir bouger, et pourtant cela ne vous touchera pas. Vous pouvez voir ce que Dieu a dit, vous êtes prêché parfaitement et ensuite être manifesté, vous n'entrez toujours pas, vous ne le croyez pas. Alors là, vous êtes hors de portée, vous êtes déjà mort, engourdi, aveuglé, parti. Il était complètement... Le monde, je me demande si cette même personne qui ne croit pas au miracle, je me demande si les seules choses qui sont réelles sont celles qui peuvent être prouvées scientifiquement. Je me demande si vous pourriez avoir un scientifique ou quelqu'un qui ne croit pas au miracle m'expliquer comment ce monde se tient dans son orbite. Comment conserve-t-il son temps parfaitement autour de l'équateur? Et son déroulement, et c'est tout simplement parfait. Nous n'avons pas de machinerie, de montre ou autre capable de garder le temps comme ça. Ça va varier de quelques minutes chaque mois. Mais ce soleil est exactement là. Des milliers d'années s'écoulent, elle ne bouge jamais, certainement, parfaitement. Comment la Lune peut, à des milliards de kilomètres de la Terre, toujours contrôler la marée? Dites-moi comment cela se passe dans la galaxie dans laquelle nous vivons. Comment la Lune pourrait-elle avoir un effet sur l'eau de la Terre? Scientifiquement, dites-moi comment c'est fait. Cela ne pourrait pas être fait, car il n'existe aucun moyen scientifique de le dire. Mais Dieu a placé la Lune pour qu'elle veille sur la mer. Et quand la Lune commence à tourner le dos, quand la Terre tourne, voici la marée montante. Mais quand il se réveille le lendemain matin, regarde en arrière, ça, en quelque sorte, la marée revient à sa place. C'est une sentinelle. Oh, vous dites, ça, c'est juste sur le bord de la mer. Non, c'est ici en Arizona, dans l'État du Kentucky, où vous creusez un trou dans le sol assez loin pour trouver de l'eau salée. Vous constaterez que lorsque la marée descendra, de l'eau salée s'abaissera dans le tuyau. Et lorsque la marée monte, elle se soulève également à des centaines de kilomètres du bord de la mer. Nous pourrions prêcher un sermon à ce sujet. Comment ce Dieu, peu importe s'il est dans la gloire, mais ses ordres là-bas ont le même effet sur le monde entier et sur quiconque prend la promesse. Son ordre est donné. Il a des lois de la nature et elles se porteront absolument comme telles de la Pentecôte ou de toute autre époque. Chaque fois que Dieu a fait la promesse, il restera toujours avec cette promesse, peu importe à quelle époque se trouvent les gens, combien de milliers d'années d'écart. Ses lois restent toujours les mêmes. Comment la semence tombe dans le sol, elle pourrit et amène une nouvelle vie. On dirait que si elle devait jamais produire la vie, ce serait quand elle est dans sa forme parfaite. Si la vie y était un jour, alors pourquoi ne serait-elle pas simplement sortie? Mettez-la dans la terre, la vie jaillit. Pourquoi tout ce qui est autour de cette vie, tout ce qui est autour de ce germe qu'aucun homme ne peut trouver, comment se fait-il que tout ce qui est autour de ce germe doit mourir? Afin qu'il puisse en surgir une nouvelle vie. Mais tout ce qui l'entoure doit également mourir et pourrir avant de produire la vie. Il en est de même avec un individu. Tant qu'il y a des insertions humaines, les idées humaines, alors le germe de vie de Dieu, le Saint-Esprit, ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas être guéri tant qu'il y a juste une fraction quelque part, que ce n'est pas encore pourri. Il contient tous les éléments humains, toutes les idées scientifiques, tous les jours de miracles sont passés, dit-on. Tout ce qui doit non seulement mourir, mais pourrir, à partir de là, pousse le germe de la vie vers une nouvelle vie. C'est la seule façon que ça puisse grandir. C'est la raison pour laquelle nous n'obtenons pas ce que nous demandons. Nous essayons de prendre avec nous tellement de nos propres idées. C'est la raison pour laquelle l'Église luthérienne n'a pas pu avancer plus loin qu'elle ne l'a fait, les pentecôtistes et les autres. Parce qu'ils injectent par un groupe de théologiens, cela ne devrait pas être comme ça. C'est pour un autre jour, et ceci était pour ça. Là, ça n'avance plus. Il ne peut pas atteindre cette image parfaite de Christ avant que chaque parole de Dieu soit reçue en vous et ensuite vous devenez cette parole. C'est comme la semence qui est tombée en terre. J'aimerais qu'ils expliquent Hébreux 11:3. Pour autant que je sache, le plus grand scientifique que nous ayons jamais eu était Einstein. Il n'y a pas si longtemps, à New York, j'écoutais ce qu'il avait dit. Et il parlait de la galaxie et de sa distance, et il a prouvé qu'il y avait une éternité. Comme un homme parcourant des millions de kilomètres à l'heure, ça lui prendrait autant, ou un million d'années-lumière à l'heure, ça lui prendrait tant d'années, hein, 300 000 ou quelque chose comme ça, puis 300 000 pour revenir. Et puis, par cela, il prouvait d'une manière ou d'une autre que l'homme ne serait parti de la Terre que depuis 50 ans, l'éternité. Et ça, ce n'est qu'une petite galaxie, quand Dieu les a soufflés de sa main. La Bible a dit, et Einstein a finalement conclu avec ceci, il n'y a qu'une façon pour un homme d'expliquer l'origine de ce monde. Cela se trouve dans Hébreux 11:3. Nous comprenons que les mondes ont été formés ensemble par la parole de Dieu. C'est tout à fait vrai. La science ne peut même pas y toucher. Et puis vous dites que vous ne croyez pas au miracle? Comment pourriez-vous le faire? Comment un scientifique pourrait-il jamais expliquer la pluie au temps de Noé, alors qu'il n'était jamais tombé une goutte de pluie sur la terre jusqu'à ce jour? Mais Noé a dit qu'il y aurait une pluie. Et quand la pluie que Noé avait prédit est arrivée, contrairement à toute la science, il n'y avait pas de nuages là-haut. Il n'y avait jamais eu de pluie là-haut. Il pouvait prouver qu'il n'y avait pas de pluie là-haut. Et ensuite, quand Dieu a ouvert les cieux et a répandu un robinet qui a totalement immergé la terre, c'était un paradoxe. Combien c'est certainement déraisonnable, inexplicable. Nous savons que Dieu l'a fait, parce que la Bible l'a dit. Et nous avons des preuves sur la terre aujourd'hui qu'il en a été ainsi. Dieu l'a fait, c'était un paradoxe. Quand Dieu prit un vieil homme nommé Abraham, âgé de 75 ans, et sa femme, âgée de 65 ans, plusieurs années après l'âge d'être femme, dans la ménopause, et quand il prit cet homme et lui fit une promesse à 75 ans, à cette femme avec laquelle il était marié, la sienne, sa demi-sœur, et il vivait avec elle depuis l'époque où elle n'était qu'une fille, il s'était marié alors qu'elle était probablement une adolescente, et elle avait maintenant 65 ans, et il leur dit, « Tu auras un enfant par cette femme. » Et si Abraham avait dit, je ne crois pas au paradoxe, je ne peux tout simplement pas accepter ça. Cela ne serait jamais arrivé. Mais vous voyez, quand vous dites croire en quelque chose, vous devez ensuite passer à l'action. Puis Abraham reçut le commandement de se séparer de toute incrédulité et de marcher seul avec Dieu. Et au lieu de s'affaiblir, il devint plus fort. Et quand il était âgé de 100 ans et que Sarah fut âgée de 90 ans, le bébé est arrivé. Comment Abraham a-t-il pu emmener son fils au loin, à 3 jours de marche, probablement une trentaine de kilomètres de toute civilisation, au sommet d'une montagne que le Seigneur lui avait montré, aller offrir en sacrifice son propre fils Isaac? Isaac, nous le savons, a ramassé le bois qui est un type de Christ, et sur cette montagne, il devait offrir Isaac en sacrifice. Et quand il eut accompli tout ce que Dieu lui avait dit de faire, qu'il était sur le point de poignarder à mort son propre fils en l'égorgeant, quand il tira le couteau du fourreau et leva la main pour obéir à Dieu, à la parole, car la Bible a dit que il savait que Dieu ne pouvait pas faire une promesse à moins de pouvoir la tenir. Et il le reçut comme quelqu'un d'entre les morts qui pouvait le ressusciter d'entre les morts et de lui redonner. Et quand il fut prêt à obéir pleinement à Dieu, Dieu attrapa sa main et dit, « Retiens ta main, Abraham. » Et là, dans cet endroit désert, il y avait un bélier qui était accroché autour des vignes avec ses cornes au haut de cette montagne où il y a des lions, des loups, des hyènes, des chacals et des grandes bêtes féroces qui mangent des moutons. Et puis, il était tout là-haut au sommet de la montagne où il n'y a pas d'eau. Comment ce bélier est arrivé là? Abraham avait ramassé des pierres tout autour pour construire un hôtel. Mais là, il y avait un bélier. C'était un paradoxe. Tout homme qui croit en Dieu et le prend au mot, peu importe la situation, Dieu accomplira un autre paradoxe pour garder sa parole. En effet, Abraham a appelé l'endroit Jéhovah Jireh. Le Seigneur s'est pourvu d'un sacrifice. Il peut toujours provoquer un paradoxe. Il peut le faire cet après-midi, si vous le prenez juste à sa parole. Daniel, dans une fosse remplie de lions affamés, comment se fait-il que cet homme, avec un groupe de lions affamés, soit resté dans la fosse avec eux toute la nuit, sans aucun mal? L'ange du Seigneur, invisible pour les autres, se tenait là. C'était un paradoxe. Quelque chose devait empêcher ce lion de l'atteindre. Quand les enfants hébreux sont entrés dans la fournaise ardente, c'était contre toute compréhension scientifique de ce grand âge. Ce n'était pas scientifique qu'un homme soit jeté dans une fournaise, qui était que les hommes qui les ont poussés dedans ont péri. Et ils sont tombés dans la fournaise et sont restés vivants là un certain temps. Et la seule chose que cela a fait, ils furent libérés de leurs chaînes. C'est un paradoxe. C'était inexplicable, déraisonnable, mais c'est pourtant la vérité. Voici Josué dont nous parlons. Comment est-ce que cet homme, juste un homme ordinaire qui vient de faire face à un groupe de credos que des hommes avaient formés, ainsi que des lois et des cérémonies, sans rien en eux, qui disaient quoi que ce soit en rapport de donner à l'homme le pouvoir d'arrêter le soleil. Mais ici, avec une commission de Dieu, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Je serai là. Et l'ennemi fut mis en déroute. Le soleil se couchait. Si ses rois avaient le temps de se réunir le lendemain, ils perdaient certainement des hommes. Mais Josué savait qu'il avait besoin de la lumière du soleil. Et il leva les yeux vers le soleil et dit, « Reste immobile devant Gibeon, et l'une reste là-bas à Ajalon. » Et pendant toute la journée et toute la nuit, le soleil s'arrêta et la lune restait là. C'est un paradoxe. Un homme qui marchait dans la volonté de Dieu pouvait faire une chose pareille. Car il était dans un Éphésien avec l'Évangile. Bien sûr, c'était un paradoxe. Moïse, un bâton à la main pour aller délivrer les enfants d'Israël, était un paradoxe, alors que l'Égypte disposait de toutes les armées et de leurs hommes bien entraînés. C'était un paradoxe. La naissance virginale était un paradoxe. Comment une vierge, contre toute intelligence scientifique, une femme qui ne connaissait aucun homme, pouvait-elle avoir un enfant? Et pas seulement un enfant, mais Emmanuel, qui s'est avéré être exactement ce qu'il a dit qu'il serait. Comment cela pouvait-il arriver? C'était un paradoxe. Parce que Dieu avait parlé à son prophète des centaines d'années auparavant et que le prophète avait obéi à la parole de Dieu. Cette parole avait été prononcée et la parole a été faite chair et habitée parmi nous. Et nous croyons cela. Certes, c'était un paradoxe. Comment pouvait-il marcher sur l'eau? C'était un paradoxe. Un être humain, selon la taille de vos pieds, ne pouvait pas faire cela. Mais il l'a fait! Qu'est-ce que c'était? Inexplicable, mais c'était encore un paradoxe. Dieu l'a fait. Nous le croyons. Nourrir 5000 personnes avec 2 poissons et 5 pains. Mais il l'a fait! Il a multiplié non seulement du poisson, mais du poisson cuit. Pas seulement du pain, mais du pain cuit. Comment pouvait-il transformer l'eau en vin? Tous des paradoxes. Il a guéri les malades de la lèpre, ce dont ils n'ont encore rien trouvé jusqu'à ce jour. La science n'a rien pour soigner la lèpre. Mais Jésus l'a guéri avec sa parole. C'était un paradoxe. Et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Sa parole guérit toujours les malades. C'est un paradoxe, certainement. Il a ressuscité des morts après la vie mortelle était sortie d'eux. Lazare, le fils de la femme à Nain, et la fille de Jairus. Il a ressuscité les morts avec sa parole, car il est la parole. Et puis, une autre grande chose en terminant, pour prouver qu'il était le Messie, pour prouver ce qu'il était, il devait venir en ordre et répondre par la parole. Et la parole dit, quand il parla au prophète, « Le Seigneur, ton Dieu, suscitera un prophète comme moi. » Beaucoup d'hommes avaient été suscités, aussi pendant des centaines d'années, ils n'avaient pas eu de prophète. Oh, ils avaient eu des prêtres et de grands hommes, et comme nous lisons l'histoire entre Malachie et Matthieu, 400 ans, il y avait eu de grands hommes, mais il n'y avait pas de prophète. Ensuite, lorsqu'il est venu sur la scène pour prouver qu'il était bien cet Éphésien manifesté, Jean l'a annoncé. Mais Jésus était cela, il était la parole manifestée lui-même. Quand Pierre vint à lui un jour avec André, il s'appelait Simon. Et quand Jésus, se tenant là, n'ayant jamais vu l'homme de sa vie, écoutez attentivement, quand il s'est tenu là et a regardé l'homme et a dit, « Ton nom est Simon et que tu es fils de Jonas. » C'était un paradoxe, bien sûr. C'était certainement un paradoxe. Quand Philippe se tenait là et entendit cela, il sut que de toute évidence, c'était le Messie. Il était certainement. Il y a cru. Il n'était ni engourdi ni aveugle. Il a couru sur le rivage, sur quelques kilomètres, et est allé chercher son ami appelé Nathanaël. Et quand il arriva là, la foi de cet homme qui pouvait en amener un autre à la réunion pour voir. Quand il est arrivé devant Jésus, Jésus a dit, « Voici un Israélite en qui il n'y a point de faute. » Cela a étonné l'homme. Il a dit, « D'où me connais-tu? » Maintenant, regardez, c'était déraisonnable. C'est inexplicable. Il a dit, « D'où me connais-tu? » Il a dit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. » Un paradoxe. Il avait besoin de passer par la Samarie, et quand il passa à Samarie, dans la ville de Sichar, il était assis là et attendait que ses disciples aillent acheter de la nourriture. Et remarquez, une femme s'est approchée du puits d'une mauvaise réputation et il lui a dit, « Femme, va me chercher à boire ou donne-moi à boire. » Elle a dit, « Ce n'est pas habituel pour toi de demander ça. Je suis juive ou samaritaine et tu es juif. Nous n'avons pas de relation avec vous. » Il a dit, « Mais si tu savais à qui tu parles, observez ce paradoxe qui se prépare. Ne le manquez pas. » Elle a dit, « Comment peux-tu faire ceci? Moi, je suis une femme de Samarie et tu es un juif. Nous n'avons pas de rapport ensemble. » Il a dit, « Mais si tu savais à qui tu parles ou qui te parle, tu me demanderais à boire. » Et il continua jusqu'à trouver où était son problème. Et il a dit, « Va chercher ton mari et viens ici. » Et elle a dit, « Je n'ai pas de mari. » Et il a dit, « C'est la vérité. Tu n'as pas de mari, car tu en as eu cinq. Et celui avec qui tu vis actuellement n'est pas ton mari. Par conséquent, tu as dit la vérité. » Elle a dit, « Monsieur, je vois que tu es un prophète. » Et il n'en avait pas eu depuis des centaines d'années. Elle a dit, « Nous savons que le Messie vient, et quand il viendra, il nous dira ces choses. » Il a dit, « Je le suis. » C'était un paradoxe confirmé, et ça s'est avéré être la vérité de l'Évangile. Un Évangile qui avait promis ceci, et ici, c'était manifesté et confirmé ce que cela était. Maintenant, laissez-moi vous donner un grand, remarquable paradoxe ici. Juste une minute. Dans Jean 14, 12, Jésus a dit, il a promis que le croyant qui croyait en lui ferait les mêmes œuvres. Pas vrai? Dieu qui fait une loi ou une promesse doit tenir cette promesse pour être Dieu. Il la tient. De penser le Dieu. Pourquoi c'est un paradoxe en lui-même? Car Dieu qui fait la promesse et qui ne peut pas rompre cette promesse pour donner cette promesse des choses qu'il a faites à son peuple et les poursuivre au travers des âges jusqu'à ce qu'il revienne. Allez par tout le monde, proclamez l'Évangile à chaque créature au monde entier. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé et celui qui ne croira pas sera condamné. Ces signes accompagneront ceux qui croient. Il doit garder cette parole, et parce qu'il l'a dit, c'est sorti de sa bouche, cela doit s'accomplir. Toute écriture doit s'accomplir. Donc, c'est un paradoxe en soi d'entendre Jésus, le Fils de Dieu, faire une telle déclaration. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Maintenant, la Bible dit dans Hébreux 13:8, « Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. » C'est un paradoxe, parce que cela doit être fait. Les cieux et la terre passeront, mais pas une parole que j'ai dite ne faillira jamais, a-t-il dit. Cela doit s'accomplir. Maintenant, mes amis, je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je crois qu'il est tout aussi capable cet après-midi dans ce bâtiment de manifester un paradoxe, car il a promis que cela arriverait. Et combien plus il a-t-il promis, combien plus cela nous conduit dans la Bible, dans cet âge où nous vivons, le temps des Éphésiens à nouveau, des âges de l'Église. Nous avons eu sept âges de l'Église, et il nous est promis qu'à l'âge de l'Église de Laodicée, il y aurait un autre Éphésien. C'est vrai? Et nous y sommes. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ a fait la promesse. Comme j'ai dit dans mon dernier message, me tenant là contre ce mur, quand j'étais ici il y a quelques semaines, chaque fois que vous bougez votre doigt, cela fait le tour du monde et ne s'arrêtera jamais. Chaque mouvement que vous faites, vous le verrez au jugement. La télévision prouve que c'est ici, la quatrième dimension. Parce que la télévision ne fabrique pas cette image, elle ne fait que transmettre cette onde dans un tube et vous voyez une image. La couleur, tous les objets en mouvement présentement dans le monde passent droit ici maintenant et sont enregistrés. Un jour, votre enregistrement sera terminé, vous allez répondre de cet enregistrement, c'est vrai. Dieu, laisse-moi être tellement accordé. Laisse-moi être si mort à moi-même et à tout ce qui m'entoure, mais être conscient de la parole de Dieu qui est vivante parmi nous aujourd'hui. Prions. Seigneur Jésus, tu es un paradoxe. Quand Dieu s'est fait chair, je prie, Père Céleste, que tu te manifestes cet après-midi pour prouver à ceux qui sont ici aujourd'hui. Pas seulement nous prouver, il y a, je suppose, 90%, voire plus, des personnes présentes ici qui croient chaque parole de cela. Mais pour que nous ne puissions te voir encore et nous laisser savoir que cette parole que tu as prononcée, qui circule toujours autour du monde, juste comme un enregistrement, laisse-nous entrer dans cet enregistrement aujourd'hui. Laisse, Seigneur, laisse-nous entrer et non pas seulement entendre cela comme étant secondaire dans la bouche d'un homme. Fais que cette bouche, cette personne et ces gens, tous ceux qui sont assis ici, deviennent ta parole. Nous sommes prêts à mourir, Seigneur, à nos propres idées, juste pour te voir, tenir ta promesse. Les choses que j'ai faites, vous les ferez aussi. Je prie que tu accordes ceci au nom de Jésus. Amen. Juste avant d'appeler la ligne de prière, un jour, je mangeais un peu de crème glacée avec un vieil ami médecin. Il a dit, « Je veux te demander quelque chose, Billy. » J'ai dit, d'accord. Il dit, crois-tu en... C'est là que j'ai eu cette pensée, paradoxe. Il a dit, crois-tu dans un paradoxe? J'ai dit, bien sûr. Il a dit, je sais que tu y crois. Il a dit, il m'a parlé d'une certaine personne qui avait été guérie pour laquelle on avait prié, à qui il avait vendu des médicaments contre l'épilepsie pendant des années. Parfois, il avait 7 ou 8 crises par jour, des médicaments forts. Et il a dit, ils ne sont plus jamais revenus. Et je les voyais tout le temps. Ils ne l'ont plus jamais eu. Il a dit, je voulais vous dire quelque chose juste pour vous faire savoir que je crois ce dont vous parlez. Il a dit, pendant la période de crise économique, mon fils, ici présent, était à la pharmacie. Il a dit, il était en train d'attendre un jeune homme. Il a juste dit, il se tenait en ligne pour les médicaments. Il a dit, un homme est venu ici et il avait sa femme. Il a dit, une petite femme, elle était... Vous pouviez la regarder et voir qu'elle était sur le point d'accoucher à tout moment. Il a dit qu'elle ne pouvait plus rester dans cette ligne, alors il a amené sa femme à la porte et il s'appuyait sur son épaule. Il a dit, mon garçon est monté. Il a dit, puis-je vous aider? Il a dit, oui. Il a dit, voici la prescription du médecin. Mais il a dit, je veux que vous compreniez bien. Il a dit, nous n'avons pas encore l'argent. Il a dit, nous allons le recevoir du gouvernement, mais ma femme ne peut plus le supporter. Le docteur a dit qu'elle doit prendre le médicament tout de suite. Et il a dit, si vous lui donnez les médicaments, j'irai là-bas faire la queue jusqu'à ce que je reçoive l'argent du gouvernement. Et le garçon a dit, monsieur, je suis désolé. Il a dit, cela va à l'encontre de nos règlements de donner les médicaments sans avoir l'argent. Vous savez quelle était la condition dans ce temps-là. Il a dit, je suis désolé pour elle, mais je ne peux pas le faire. Il a dit, j'étais assis là en train de lire le journal et j'ai levé les yeux et il a dit, quelque chose a étrangement réchauffé mon cœur. Il a dit, je me suis levé, j'ai dit, attendez une minute, fils, attendez une minute. L'homme allait passer la porte. Il a dit, bon, d'accord, fils. Il passait la porte. Il a dit, juste une minute. Il a dit, qu'y a-t-il? Il a dit, eh bien, cet homme, il lui a expliqué. Il a dit, laissez-moi voir la prescription. Il a dit, attends une minute, fils. Je vais vous amener les médicaments. Il a dit, je suis allé derrière, j'ai préparé l'ordonnance que le médecin avait prescrit sur son papier. Il a dit, je suis allé là et j'avais cet argent. Il a dit, je lui ai donné, ne sachant pas si je recouvrirais cela ou pas, mais j'ai juste pensé que je le recouvrirais. J'ai pensé juste que c'était ce que je devais faire. Il a dit, Billy, quand j'ai mis ce médicament dans la main de cette femme, il a dit, c'était le Seigneur Jésus. Il a dit, j'ai vu un homme qui se tenait là. Et il a dit, j'ai lu plus tard que l'Écriture dit, ce que vous avez fait à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Il a dit, Billy, qu'est-ce qui est arrivé à mes yeux? Est-ce que j'ai réellement vu? J'ai dit, oui, monsieur, je le crois. Je crois que vous avez si bien rempli votre devoir de pharmacien, alors qu'il y avait un besoin urgent. Jésus a dit, ce que vous avez fait à ces autres, c'est à moi que vous l'avez fait. Je le crois. Et je crois à cette même chose aujourd'hui, ici même avec ces gens, que Jésus-Christ peut se manifester, se rendre lui-même parole faite chair parmi nous cet après-midi. Allez-vous le croire? Le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons appeler les cartes de prière pour que les gens s'avancent. Et nous ne pouvons pas en avoir beaucoup, car je pense que maintenant, si je regarde bien ma montre, il me reste 25 minutes pour que nous terminions à temps à 16 heures, mais nous allons continuer. Maintenant, commençons par la carte de prière. Je crois que c'était A, n'est-ce pas? A. Commençons à partir de A1. Qui a la carte de prière A1? Simplement, vous appelez un à la fois. Alors, si vous êtes estropié, nous pouvons vous transporter, d'accord? Carte de prière A1. Qui, là, levez la main quelque part dans le bâtiment? La carte au fond en arrière? Voulez-vous venir, madame, si vous le pouvez? 1, 2. Qui a la carte de prière 2? A2, voulez-vous lever la main si vous pouvez vous marcher? D'accord, venez juste ici, de ce côté. 3, si vous levez votre main tout de suite, je peux vous voir. Nous ne pouvons attendre très longtemps. Car, carte de prière numéro 3, voudriez-vous lever la main? D'accord, un homme là-bas. D'accord, venez ici, monsieur. Carte de prière numéro 4, voudriez-vous lever votre main rapidement maintenant, aussi vite que vous pouvez? Carte de prière numéro 4, d'accord. Numéro 5, juste comme je vous appelle, levez-vous. Numéro 5, d'accord. Numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 9, 10. Maintenant, 1, 2, 3, 4. 10, 14, 11, 12, 13, 14. Êtes-vous en train de venir, monsieur? 14? D'accord. 14, 15, bon, ça sera. Ce sera suffisant maintenant. Ça suffira pour cet après-midi, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Maintenant, regardez. Je veux que vous me donniez toute votre attention. Maintenant, Jésus a fait cette promesse que encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Croyez-vous cela? Le monde est l'ordre du monde. Voyez cela? Il savait qu'il allait continuer dans les modes et ces choses. Mais ils ne me verront plus, mais vous, vous me verrez. Car il a promis, je serai avec vous, même jusqu'à la fin du monde. Pas vrai? La Bible dit dans Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous croyez cela? C'est une promesse. Maintenant, ce n'est pas nécessaire d'être ici pour être guéri. La seule chose à faire est de croire que la parole est la vérité. Maintenant, je vais vous demander, si vous voulez, d'être juste révérencieux et calme pour quelques instants. Est-ce qu'ils sont tous venus, Billy? Vous savez, 2 qui sont sortis, 3 sortis. Que dites-vous? Encore 3? Numéro 3, carte de prière numéro 3. Quel moment? Quel est le mot mexicain pour ça, 3? Quelqu'un peut le dire? D'accord. Ils l'ont sûrement entendu. Quoique celui qui a cette carte de prière vienne dans la ligne, voulez-vous? Oh oui. Oh, je pensais que c'était quelqu'un qui l'avait, mais il ne l'avait pas. Ils sont retournés. D'accord. Maintenant, qu'en est-il? Est-ce que tout le monde croit maintenant de tout votre cœur? Eh bien, prions-nous, voilà. Seigneur Jésus, nous réalisons maintenant que nous pouvons lire la parole au mieux de notre connaissance et l'expliquer. Mais Seigneur, tu es le seul qui peut la confirmer. Tu es le seul qui peut dire si c'est vrai ou faux. Et Père, je prie aujourd'hui que tu laisseras les yeux des gens s'ouvrir. Puissions-nous voir un paradoxe cet après-midi, Seigneur, juste assez pour que les gens voient que tu es présent, que tu n'es pas imaginaire, que ta parole est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Car tu es cette parole pour le bien des malades, Seigneur, pour le bien de ceux qui souffrent. Beaucoup sont probablement ici, venant de différentes parties du pays, de différentes parties de la nation. Ils souffrent, car ils ne pourraient pas apprécier les réunions autrement s'ils n'étaient pas guéris. Je prie que tu les guérisses. Accorde-le, Seigneur. Et maintenant, nous ne sommes que des êtres humains physiques. et nous ne pouvons que prêcher la parole et dire ce que tu as dit être la vérité. Maintenant, tu es celui qui la manifeste. Je prie pour que tu l'accordes au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je voudrais juste avoir toute votre attention, juste pour un moment. Et si chacun peut juste rester assis maintenant pendant quelques minutes. Pour autant que je sache, bien sûr, je ne connais personne que je puisse voir dans la salle que je connais. Maintenant, vous n'avez pas à être ici pour être guéri, tout le monde sait cela, vous voyez? Il y avait une petite femme, une fois, qui ne pouvait pas obtenir de carte de prière, disons, et elle toucha son vêtement. Et il s'est retourné à regarder, il a dit, « Qui m'a touché? » Et ils ont tous nié. Et il a regardé autour de lui, il a vu cette petite femme. Elle ne pouvait pas se cacher, car l'Esprit de Dieu qui était en lui le conduisait. Il était la parole, et ça l'a conduit droit vers elle, et il lui a dit quel était son problème. Elle avait une perte de sang, elle fut guérie. Elle l'a cru. Et immédiatement, dans son corps, elle a senti que cette perte de sang avait cessé. Est-ce vrai? Ça s'est arrêté immédiatement. Maintenant, il est exactement le même aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé d'être ici. Maintenant, la Bible a dit que dans le Nouveau Testament, maintenant que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur, croyons-nous cela? Le seul souverain sacrificateur que nous avons, le seul intercepteur que nous avons entre Dieu et l'homme est l'homme, le Christ, Jésus-Christ. Voyez-vous cela? Et la Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités, pas vrai? Combien savent que c'est vrai? Levez la main pour qu'il, très bien, je ne suis pas parmi des étrangers dans cette parole. Maintenant, comment agirait-il si vous le touchiez? Il agirait de la même manière qu'il l'avait fait quand il était ici, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, pas vrai? Maintenant, croyez simplement, dites simplement, maintenant, Seigneur, j'ai participé à des réunions, mais je vais y croire aujourd'hui. Je ne vais même pas prendre mes propres pensées, je vais juste croire de tout mon cœur que tu es ici. Et j'ai un besoin. Eh bien, juste aide-moi, Seigneur. Voyez, maintenant, faites cela. Ne soyez pas nerveux, juste une foi sereine. Un don de foi n'est pas quelque chose que vous prenez et faites quelque chose avec. Un don de foi, c'est simplement vous enlever du chemin. Le don, c'est de vous enlever du chemin. Maintenant, voici une femme debout. Dieu le Père le sait. Pour autant que je sache, je n'ai jamais vu la femme de ma vie. Elle m'est totalement étrangère. Mais il n'y a que deux ou trois personnes que je peux voir là que je connais. Je pense que c'est Mme Vail, assise ici, l'épouse de Frère Lee. Je ne suis pas sûr. Ensuite, je connais ces trois ou quatre garçons assis juste ici. Autant que je sache, c'est tout ce que je vois à la réunion en ce moment que je connais. Je crois que c'est le frère Anthony Milano qui est assis là de New York, frère Pat Tyler du Kentucky. En dehors de ça, je sais que Fred Sutman est là quelque part. Je l'ai entendu crier « Amen » il y a un moment. C'est à peu près tout. Et le Père Céleste le sait. Et cette femme debout ici, je ne l'ai jamais vue. Je n'ai aucune idée du pourquoi elle est ici. C'est juste une femme venue ici sur l'estrade, de même que vous, assis là-bas. Maintenant, si cette femme est dans le besoin, eh bien, alors, si je pouvais l'aider, je le ferais. Mais maintenant, cela dépend de ce dont elle a besoin. Si c'était de l'argent, je pourrais réunir 5 ou 10 $. En dehors de ça, je ne sais pas, vous voyez. À moins que je lui donne un chèque postdaté jusqu'à ce que je reçoive mon salaire le mois prochain. Mais maintenant, si elle a des ennuis domestiques, puis je dirais, va chercher ton mari, parlons ensemble. Peut-être que je peux vous aider. Je n'ai aucun moyen de rentrer chez moi. Eh bien, je demanderai à quelqu'un de votre coin s'il peut vous ramener chez vous. Vous habitez quelle rue, par ici, ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais si c'est une maladie, alors je ne sais pas. Vous voyez? Mais je ne connais pas la femme. Mais il y a quelqu'un ici, cette parole, qui a promis. Les choses que je fais, vous les ferez aussi. Maintenant, peut-être que si cette femme est malade, peut-être qu'elle a un cancer, peut-être qu'elle a la tuberculose ou quelque chose que la médecine ne peut pas aider à ce niveau, eh bien, maintenant, je ne pourrais en aucun cas guérir la femme. Mais maintenant, s'il peut me révéler ce qu'elle désire, juste comme il a fait à la femme au puits, ou comme il a fait à Nathel, ou dit à Simon quel était son nom, il a dit, tu t'appelles Simon, tu es fils de Jonas, désormais on t'appellera Pierre, ce qui signifie une petite pierre. Eh bien, s'il voulait faire quelque chose comme ça ici, en présence de vous tous, cela montrerait que cette parole est la vérité. Maintenant, combien vont croire cela? Y a-t-il quelqu'un ici qui connaît la femme? Levez la main, vous dans la salle. Oui, beaucoup d'entre vous la connaissent, d'accord? Et le Père sait que je ne la connais pas. Eh bien, voyons maintenant ce qu'il dirait. Et serait-ce un paradoxe? Je ne sais pas ce qui ne va pas chez elle. Je ne sais pourquoi elle est ici ou rien à son sujet, mais Dieu le sait. Je vais parler à la femme. Maintenant, c'est la première personne que j'ai devant moi depuis 3 mois. Maintenant, je veux juste parler à la dame, juste un instant. Et qu'est-ce? Contacter son esprit, juste comme Jésus qui avait fait avec la femme au puits, contacter son esprit. Maintenant, madame, si le Seigneur Jésus peut me révéler ce qui ne va pas chez vous, ou ce pourquoi vous êtes ici, ou quelque chose dont vous savez que je ne sais pas, ou quelque chose dans cet ordre, croirez-vous que c'était lui? Il faudrait que ce soit lui, n'est-ce pas? Il faudrait que ce soit lui. S'il le fait, alors nous serons tous reconnaissants de savoir que nous sommes, que sa parole est vraie, alors nous pouvons avoir confiance en elle. Alors, s'il peut me révéler quel est votre problème, et moi qui ne vous connais pas et vous savez cela, mais maintenant, s'il peut me révéler quel est votre problème ou quelque chose à votre sujet, alors cela montre qu'il y a un esprit ici, quelque part, qui vous connaît et vous savez que je ne vous connais pas. Donc, ce ne serait pas l'homme, ce serait l'esprit. Et c'est ce que Dieu a promis en ce temps d'Éphèse. Croyez-vous que c'est la vérité? Puisse-t-il l'accorder? Je vois une chose, elle souffre d'une sorte de problème de sinus ici dans sa tête. C'est vrai, n'est-ce pas? Levez la main si c'est ça. Mais les sinus ne vous feraient pas éternuer et porter cela si longtemps comme ça. Alors, vous avez aussi le rhume des foins. C'est vrai. Vous n'êtes pas de Phoenix, vous venez d'où? D'où il y a beaucoup de collines, d'arbres. Vous êtes de Flagstaff. C'est vrai? Vous croyez que Dieu peut me dire qui vous êtes? Vous êtes Madame Earle. Oui, c'est vrai. Maintenant, allez-y, en croyant, et tout ça, ce sera terminé. Maintenant, il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Maintenant, le Père Céleste sait que je viens de voir la femme. Voyez, la parole est confirmée. Maintenant, ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un homme. Tout comme ce microphone, il n'émet aucun son si je ne parle à travers lui ou quelqu'un d'autre. Tout comme un homme est muet, mais c'est l'esprit, et cet esprit est juste là, parmi vous. Voyez? C'est lui le guérisseur, pas moi. Comment allez-vous, monsieur? Un autre homme qui m'est étranger. Je ne connais pas cet homme. Pour autant que je sache, je n'ai jamais vu de ma vie. Mais maintenant, l'Esprit, le Saint-Esprit et Jésus-Christ sont le même Esprit. Le Oint, Jésus, l'homme, était le Fils de Dieu, mais le Saint-Esprit qui était sur lui était Dieu. Mon Père demeure en moi. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit, donc c'est toujours Dieu. Maintenant, si je peux juste m'enlever du chemin, et cet homme peut s'enlever du chemin, alors cette partie est morte, alors laissez l'Esprit de vie agir. Vous voyez, c'est pourquoi j'attends juste une minute pour voir ce qui se passe jusqu'à ce que l'onction commence. Si le Seigneur Dieu, dont nous sommes dans la présence, me révèle, monsieur, quel est votre problème, ou quelque chose que vous avez fait, ou quelque chose à votre sujet, juste quelque chose. Bien sûr, plus on parlerait, plus ça irait, mais il y en a d'autres qui attendent dans la ligne. Mais s'il veut bien me dire quel est votre problème, croyez-vous que je suis son serviteur et croirez-vous qu'il est ici? Une hernie. C'est vrai. D'accord. Là, vous dites, comment cela s'est-il fait? J'aimerais le savoir. Personne ne peut expliquer ça. C'est un paradoxe, voyez? Afin que vous le sachiez, j'ai vu quelque chose d'autre, un examen. Vous souffrez aussi d'une maladie de cœur. Levez la main. Monsieur Anderson, vous pouvez rentrer chez vous. Jésus-Christ vous guérira. C'est vrai. Croyez simplement, ayez foi, n'en doutez pas. Comment allez-vous, monsieur? Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Je ne vous connais pas. Pour autant que je sache, c'est la première fois que je vous vois, pour moi, de vous connaître. C'est vrai, mais il nous connaît, nous deux. Maintenant, vous savez pourquoi cela se produit? C'est sa grâce qui le permet pour que cela amène ces gens à prendre conscience de Dieu. Je ne connais rien à votre sujet, je ne vous connais même pas, juste un homme inconnu qui est venu ici. Alors, ce serait absolument un paradoxe que quelque chose se produise, de savoir ce qui n'allait pas chez vous, ou quelque chose que vous avez fait, ou quelque chose que vous n'auriez pas dû faire, ou quelque chose que vous auriez dû faire, ou qui vous êtes, ou quelque chose à votre sujet. Il faudrait que ce soit un paradoxe, parce qu'il n'y a aucun moyen pour quiconque de savoir ça. Si ce n'est pas par une révélation de l'invisible, c'est vrai. S'il le fait pour vous, entre vous et moi, pour que l'auditoire, pas pour faire un spectacle, mais pour qu'il puisse voir que l'Éphèse est ici, que c'est la chose qui fait le pont entre la dénomination et la terre de gloire, il a promis, afin qu'il soit assuré de ce que nous disons, que ce que nous disons est la vérité. Maintenant, pour vous connaître, vous savez que je ne vous connais pas. C'est lever la main pour que les gens voient que vous. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. C'est juste un homme debout ici. Demandez à n'importe qui. Mais vous souffrez d'une hernie. Vous avez également des hémorroïdes. C'est vrai. Vous avez parcouru un long chemin pour venir ici. Vous n'êtes même pas un Américain. Vous êtes Canadien. Vous avez avec vous un fils atteint d'une maladie mentale, c'est vrai? Vous voulez que je vous dise d'où vous venez? Vous venez de la province de Saskatchewan, de la ville de Saskatoon. Croyez de tout votre cœur et Dieu vous fait rentrer chez vous, rétabli avec votre fils si vous le croyez. Vous le croyez? Que Dieu vous bénisse. Croyez-vous? Le Seigneur Dieu demeure toujours Dieu, voyez? Il n'y en a pas d'autre que lui. Comment allez-vous? Voici une dame qui m'est inconnue, peut-être un peu plus âgée. Je ne l'ai jamais vue, mais c'est juste une femme debout ici. Je vais devoir me dépêcher parce qu'il ne reste que 7 ou 8 minutes, vous voyez? Regardez par ici. Croyez-vous que ces choses sont vraies de tout votre cœur? Vous savez qu'il m'est impossible de savoir ce qui ne va pas chez vous ou quoi que ce soit à votre sujet? Mais ce n'est pas impossible pour Dieu de le savoir, parce qu'il le savait avant même qu'il y ait un monde, n'est-ce pas? Combien d'entre vous croient que c'est vrai? Bien sûr, il savait toutes les fois que vous alliez battre des paupières. Il est infini. Et pensez simplement, par sa grâce, il a présenté à l'aide de son évangile la même chose qu'il a promis de faire. Alors il y a un ciel, et nous y allons. Et nous sommes dans cette Éphèse en ce moment même. On est là-dedans, on sort de l'un et on entre dans l'autre. Vous avez beaucoup de choses qui ne vont pas chez vous. Des complications, tellement de choses qui ne vont pas. Vous n'êtes pas d'ici. Vous venez de l'Ouest ici. Vous venez de Californie, c'est vrai. Vous avez aussi un fils qui est affligé. C'est vrai. Vous... Il y a quelque chose, je n'arrête pas de voir de l'eau ou un grand lac. Oh, c'est que vous avez quelqu'un qui est proche de vous, qui vit à Chicago et qui me connaît. C'est vrai. C'est la vérité. Vous savez que je ne vous connais pas, mais croyez-vous que Dieu sait qui vous êtes? Madame McGuire, vous avez reçu votre demande. Rentrez chez vous en remerciant Dieu. Comment allez-vous? Vous êtes une très jeune. Mais la maladie et l'infirmité ne font pas exception de personne. Combien savent cela? Nous savons juste que ça ne fait pas exception de personne. Si tu peux croire de tout ton cœur et de toute ton âme, cet asthme vous quitterait si vous le croyez de tout votre cœur. Ce mal dans votre poitrine, croyez-vous qu'il vous quitterait aussi, sœur, et que vous seriez guérie? Qu'avez-vous touché? Elle est à 20 pieds de moi ou plus. Elle a touché le maître. C'est la congestion des nerfs. Vous irez bien. C'est une chose noble que cette jeune femme représente. Elle est une parfaite étrangère. Je n'ai jamais vu la femme, mais elle a été amenée ici par quelqu'un d'autre. Et ce qui l'amène ici, c'est parce qu'elle a entendu une bande que j'ai faite. Elle est ici à la recherche du baptême du Saint-Esprit. C'est exactement ce pourquoi elle est ici. C'est vrai. Jeune femme, c'est vrai. Venez ici. Cher Dieu, que cet enfant qui se tient ici, qui passe maintenant des ténèbres à la lumière, puisse-t-elle recevoir le Saint-Esprit, aller chez elle et ses bien-aimés, leur montrer les grandes choses que Jésus a faites pour elle. Amen. Que Dieu te bénisse. Ne doute pas. Crois. Dieu peut guérir toutes sortes de nervosités. Et croyez-vous cela? Des conditions asthmatiques et vous guérir? Croyez-vous cela? Alors allez, croyez de tout votre cœur que Dieu vous bénisse, frère. Quel âge avez-vous? Vous devriez sortir de cette nervosité avant trop longtemps, n'est-ce pas? Vous avez toutes sortes de crises épuisantes et tout ce qui vous arrive, mais cela vous a quitté maintenant. Oui, monsieur. Dieu guérit aussi la nervosité et les problèmes d'estomac. Vous croyez cela? Alors allez manger ce que vous voulez. Jésus-Christ vous a guéri. Croyez-vous, chacun de vous? Il y a un homme assis avec une chemise. Il me regarde. Oui, il a regardé sa chemise à l'instant. Oui. Croyez-vous que Dieu peut guérir les problèmes de glande, qu'il peut vous guérir? Vous croyez à l'instant? N'est-ce pas? Au même moment que ce petit garçon était guéri de cette maladie asthmatique, rentrez chez vous. Chérie, vous aussi, vous allez recouvrir la santé, voyez? Croyez de tout votre cœur. La petite dame assise à côté de votre femme, pourriez-vous croire que vos yeux vont recouvrir la santé aussi? Vous croyez que Dieu guérira ce problème aux yeux? Levez la main si c'est pour ça que vous priez, voyez? Qu'est-ce qu'ils ont touché? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Croyez-vous? Croyez-vous, jeune homme? Dieu peut guérir cette maladie du sang, arranger les choses. Le croyez-vous? Vous faire retirer ces choses pour le diabète et vous redonnera la santé. Croyez-vous cela? Dites-lui que vous croyez et continuez votre chemin. Venez, monsieur. Vous avez des problèmes d'estomac. Vous croyez que Dieu peut le guérir? Guérir cela? Allez, croyez-le. Vous irez bien. Vous serez guéri. Venez, amenez ce petit garçon. Regarde par ici, fiston. Vous venez de loin. Parfois, le changement d'altitude, le changement de climat sera suffisant pour guérir un problème d'asthme. Mais il y a une guérison certaine, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il a donné son Fils afin que le tien puisse être guéri. Croyez-vous cela? Croyez-le de tout votre cœur, ça le quittera. Il sera normal, un homme bien portant. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Croyez-vous? Est-ce que Dieu fait encore des paradoxes? Inexplicable, contraire à la raison, c'est des choses que les gens ne comprendraient pas, mais c'est toujours vrai, n'est-ce pas? Combien d'entre vous ressentent et savent dans votre esprit qu'il doit y avoir quelque chose qui dépasse la compréhension humaine? Maintenant, je pense que nous avons appelé au moins 15 personnes dans cette ligne, chacune d'entre elles, 4 ou 5, 6 là-bas dans la ligne, sans carte de prière ou peu importe s'ils étaient dans la ligne ici ou dans l'auditoire ici, mais nous en sommes qu'à une minute de la fermeture. L'a-t-il fait? Exactement comme il a dit qu'il le ferait? Combien de personnes croient qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Vous ressentez sa présence? Maintenant, vous avez vu sa présence. Maintenant, vos yeux ont vu, vos oreilles ont compris. Et Dieu a confirmé devant vos yeux sa présence. Et c'est ce que vous ressentez tout le temps. C'est ce qui vous condamne quand vous avez tort et vous dit de ne pas faire cela. Ce même Dieu est devenu visible pour vous ici cet après-midi dans 16 heures. Combien disent amen à ça? Bien sûr, ça l'est. Maintenant, il est ici. Y a-t-il une personne parmi nous qui n'a jamais été chrétien, qui n'a jamais eu de confession, qui n'a fait qu'aller à l'église? Voudriez-vous vous lever et dire, je veux me lever, non pas pour vous, ministre, mais je veux me lever pendant que je suis en présence de cette personne, Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit qui est sur nous présentement. Je veux me lever et dire, je veux que tu me sauves de mes péchés. C'est tout ce que je veux que vous fassiez. Levez-vous et ce sera un témoignage. C'est tout ce que nous avons le temps de faire. Dites, je veux être un chrétien. Levez-vous, puis rassiez-vous aussitôt. Y en a-t-il une personne dans la salle? Combien y en a-t-il dans la salle? Je ne devrais pas dire qu'il y en a une parce qu'il pourrait y en avoir plus d'une. Combien de personnes dans la salle voudraient se lever à ce moment même et dire, j'ai eu tort, Dieu, pardonne-moi, je vais me lever pour te témoigner que j'ai eu tort. Je vais m'asseoir pendant que je suis ici, dans ta présence, je vais m'asseoir, levez-vous, c'est tout. Y en a-t-il un, plus d'une, une main? Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Y en a-t-il un autre? Que Dieu vous bénisse. Y en a-t-il un autre? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère. Y en a-t-il? Que Dieu vous bénisse là-bas. Y en a-t-il un autre? J'ai eu tort. Dieu, pardonne-moi. Que Dieu vous bénisse, monsieur. J'ai eu tort. Je suis désolé, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il quelqu'un qui se méfiait de ce ministère? Et vous êtes convaincu maintenant que c'est vrai. Levez-vous et dites, Dieu, pardonne-moi. Levez simplement la main. Dites, j'étais un peu méfiant. Frère Branham, tout est parti maintenant. Levez la main. Pas un seul, je vous remercie. Combien croient cela? Ça ne peut pas être moi, mais c'est Christ, le Fils de Dieu. Merci. Alors vous verrez les plus grandes choses que cela. Tant que vous le croirez, restez avec Christ. Je ferai de mon mieux pour rester avec lui moi-même. Maintenant, combien d'entre eux être malade et dans le besoin, lever la main? Je suis malade, frère Branham, je suis dans le besoin. Voyez, regardez combien il y a de personnes. Maintenant, allez-vous le faire et crois ma parole? Posons nos mains les uns sur les autres pendant que je tends mes mains vers vous. Prions. Cher Dieu, je t'apporte ce petit auditoire cet après-midi où nous avons entendu et lu la parole de Dieu. Nous savons que c'est la vérité parce que c'est ta parole. Non seulement nous la croyons maintenant, mais nous savons que c'est vrai. Nous t'avons vu, Seigneur, faire quelque chose qui fera savoir aux gens qu'il y a encore, en plus d'être un paradoxe du monde, de l'espace et des lois naturelles de Dieu. Nous pouvons voir ici où la loi de la mort agit dans le corps humain, où cette science a échoué à guérir par leurs recherches. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ces gens. Nous ne voulons absolument pas les rabaisser. Nous leur en sommes reconnaissants. Et Seigneur, quand il s'agit d'une situation où ils ne peuvent plus rien faire, nous voyons maintenant ta grande main entrer en scène, sachant qu'il n'y a aucun homme pour les guérir parce qu'il serait un médecin ou qu'il devrait prendre quelques remèdes, mais de voir descendre le Fils de Dieu, et c'est ce qui nous a fait la promesse que nous y croyons tous. Et chaque personne qui n'était pas sauvée a levé la main et qui désirait être sauvée. Dieu, quelque chose a averti leur cœur. Certains d'entre eux ont dit qu'ils avaient tort, qu'ils avaient peut-être rétrogradé, qu'ils voulaient revenir. Je prie que tu les ramènes tous. Car ils savent, Seigneur, ils ont su. Beaucoup d'entre eux peuvent me connaître ou avoir entendu parler de moi depuis des années et savent qu'il n'y a rien de bon dans un homme, et spécialement en moi. Comment pourrait-il y avoir quoi que ce soit de bon? Mais pourtant, ils ont vu cette parole que Dieu a promise et rendue manifeste. Ils sont convaincus que c'est la vérité. Ils l'ont accepté. Beaucoup n'ont pas à en venir sur cette plateforme. Et Père, tu es mon témoin. Jamais je n'ai dit que ce serait quelque chose que je pourrais faire, pas plus que de me livrer à toi et de te laisser m'enlever du chemin et y mettre ton esprit pour œuvrer. Maintenant, Père, voyant qu'une personne peut faire cela, les autres peuvent le faire. Je prie que chacun qui allait m'imposer les uns sur les autres, qui est malade et affligé, soit guéri maintenant même. Que le grand Saint-Esprit passe par le bâtiment maintenant, même, et guérisse tout le monde. Sauve tout le monde, Seigneur. Donne-leur une telle expérience. Seigneur, déverse le Saint-Esprit sur cet auditoire. Oh, nous nous attendons à toi pour que tu fasses de grandes choses cette semaine. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, tout de suite, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, levons-nous tous. Voyez-vous de tout votre cœur? Maintenant, je me demande... Si notre sœur au piano me donnerait une petite note de ceci, je le louerai. Vous avez déjà entendu ça? Maintenant, chantons-le tous ensemble. Nous espérons vous rencontrer demain. Maintenant, allons officiellement terminer la réunion dans un instant, mais je veux chanter ce chant avec vous. Je louerai l'agneau meurtrier. Que tout peuple glorifie, car son sang lave tous les péchés.
Let's just raise our hand now. Let's sing
it to
the Lord.
Chantons-le de tout notre cœur.
I will pray.
Is so bold.
to his table. He says he bought to
let's just hum a real song.
Fredonnons-le doucement et en prière.
Céleste,
que nous te remercions pour ta présence avec nous aujourd'hui.
Que
nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde.
Et
les gens dans le temps et à travers tes prophètes avec ta grâce et ta miséricorde. Père, je sens que tu as fait comme ça avec nous aujourd'hui. Tu as étendu ta grâce et ta miséricorde sur nous. Tu nous as accordé un paradoxe. Comment te remercions pour cela, Père? Comment te remercions pour la nourriture emmagasinée?
As Brother Branham said, comme Frère Branham a dit, alors
lorsqu'il sera parti loin, nous aurons quelque chose à manger. Tu t'es manifesté, Seigneur, devant nous, Seigneur, et nous te remercions pour cela. Nous te remercions, Seigneur, pour cette petite épouse, Seigneur, qui est en train de se préparer. Et il n'y a rien d'autre qu'elle désire, Seigneur, que la parole parlée, Seigneur. Ça seulement est Jésus-Christ, rien d'autre. Et Père Céleste, nous sommes tellement reconnaissants pour ton serviteur, Frère Joseph. Et nous prions, Seigneur, que tu envoies tes anges pour le prendre et l'encourager et le réconforter. Et Père Céleste, que tu donnes paix à son esprit, Seigneur, et du repos, Seigneur, peu importe où il est. Il y a un groupe de gens à travers le monde entier qui sont en train de prier et qui se tiennent derrière lui avec tout ce qu'il peut passer. Nous te remercions pour lui, Seigneur. Merci pour ta petite épouse à travers le monde entier qui se fortifie avec les paroles de la vie éternelle d'aujourd'hui, Seigneur. Et alors que nous allons terminer la réunion et partir de cet endroit, nous te demandons de jamais quitter ta présence et que ces paroles de vie éternelle soient ancrées dans notre cœur, Seigneur. Parole sur parole, précepte sur précepte. C'est ce qui constitue cette petite épouse et nous te remercions pour cela. Nous te remercions, Père, pour cette bénédiction, c'est un privilège d'être ici aujourd'hui. Nous te remercions, Père, et nous demandons ces choses dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chanter Dieu est si bon.
God is so good.
Mais
dans sa présence, nous aimons que le Seigneur vous bénisse et paix à chacun de vous.